Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre accueil si chaleureux, mais en même temps qui m'impressionne parce que j'avais pas tout dit, heureusement. J'espère que vous n'aurez pas à regretter de m'avoir invité. En tout cas, je me réjouis de me retrouver à Annecy et heureux aussi de partager avec vous des réflexions autour d'une question qui effectivement me tient à cœur. Un sujet dont je voudrais d'emblée souligner la pertinence. La pertinence aujourd'hui. Stéphane Tremblay disait à midi que c'était de surcroît un thème particulièrement d'actualité, nous le mesurons tous. C'est aussi un sujet très vaste, donc pour la conférence de ce soir, il fallait faire des choix. J'ai plutôt insisté sur le thème général politique et religion, mais on parlera aussi de la laïcité, bien sûr, mais on pourra surtout en parler dans le débat. C'est surtout un sujet sensible et complexe, et j'ai trouvé le Conseil Régional très courageux d'oser mettre à l'ordre du jour de cette semaine thématique un sujet aussi sensible. L'effondrement des grandes utopies du XXe siècle, les totalitarismes que l'on connaît avec les blessures qu'ils ont laissées, les blessures inguérissables qu'ils ont générées, ont largement contribué à changer le regard porté sur le politique ou sur la politique. Elle est tombée de son piédestal, car la politique n'est plus porteuse d'espoir partagé, ni considérée comme susceptible d'apporter à coup sûr le bonheur à l'ensemble de la société. Du coup, devant cette sorte de désenchantement, beaucoup de nos contemporains sont moins portés par un projet commun que par un souci d'épanouissement personnel. S'il fallait une émission phare, une émission titre à cette quête personnelle, c'est la fameuse émission heureusement terminée, qui s'appelait C'est mon choix. Hein, nous sommes dans la société où l'important, c'est que je m'épanouisse, moi, là où je veux, comme je veux, quand je veux. D'autant que plus une société accorde d'importance et d'indépendance aux individus, nous mesurons bien en même temps qu'elle devient épuisante pour eux. Alors, face à un environnement perçu comme inquiétant ou par d'autres comme trop contraignant, le privé devient une valeur refuge. Chacun a tendance à se replier sur la défense de ses intérêts personnels, de ses droits particuliers, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient communautaires. Nous le sentons bien autour de nous, le sentiment d'appartenance, la solidarité s'effondre, les solitudes se généralisent, se dramatisent dans notre société, et du coup, le politique, dont la tâche est précisément d'empêcher l'effacement du lien social, semble aujourd'hui disqualifié dans le contexte douloureux d'une crise qui ne passe pas. On a le sentiment que tout le XXe siècle a été porté par l'ambition de changer le monde. Et aujourd'hui, et on le voit souvent dans les nouveaux mouvements religieux, l'aspiration de beaucoup serait plutôt de changer de monde, c'est-à-dire de s'évader d'un monde perçu comme douloureux et inquiétant. Quand on regarde la politique, le clientélisme, les scandales financiers, les problèmes avec la justice, les promesses non tenues, bref, vous pourriez comme ça, on ne s'en prive pas dans la presse aujourd'hui, multiplier les qualificatifs, ces pratiques que l'on dit politiciennes contribuent encore en plus à ternir l'image et la crédibilité des acteurs politiques de tous bords, avec pour résultat, nous le constatons tous les jours, le désintérêt des citoyens pour la chose publique, sur le plan électoral, leur abstentionnisme croissant, et bien sûr les dérives dangereuses du populisme, du communautarisme et la montée des extrémismes et leur haine de l'autre différent. Toujours pour montrer en quoi aujourd'hui le politique a perdu d'une certaine manière de son prestige, de son ambition, en tout cas aux yeux des citoyens, j'ajoute que dans l'Église, il n'est pas non plus particulièrement valorisé. Alors pourtant, il y a eu une époque où il l'a été. Hein, après les années 68, avec l'engouement des années 70 porté par le slogan que l'on entendait dans l'Église, tout est politique. Avec des documents qui sont restés célèbres dans le protestantisme Église et pouvoir, qui avaient suscité bien des turbulences dans le peuple de l'Église, ou si on pense du côté catholique aux théologies de la libération, La politique aujourd'hui dans l'Église est plutôt devenue un sujet tabou, d'où le courage du conseil presbytéral que je saluais tout à l'heure. Une des craintes qui est souvent exprimée, notamment parmi les fidèles, c'est que toute parole des églises dans l'espace public, tout engagement des églises dans l'espace public, conduise sur un terrain particulièrement passionnel, propice aux jugements, aux exclusives, avec bien sûr derrière le risque de division de la communauté. Ce qui est redouté quand l'Église ou les autorités de l'Église s'expriment publiquement, eh bien c'est le parti pris éventuel de telles paroles, leur caractère unilatéral, voire militant. Le journaliste nous rappelait à midi d'ailleurs que la même parole peut être interprétée dans un sens ou dans un autre. Mais ça montre à quel point on n'est plus trop dans un discernement et dans une réflexion, mais plutôt dans une réaction de type passionnel. Bref, lorsque l'Église se mêle de l'espace public, on craint qu'elle se fasse instrumentaliser de manière partisane dans un jeu de rapport de force au lieu de se consacrer à sa mission spécifique qui est d'annoncer l'Évangile. Alors, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer toutes ces questions, toutes ces réticences, toutes ces réserves que j'exprime là en introduction. Elles se manifestent aussi bien dans la société que dans l'Église. Il ne faut pas davantage les considérer comme illégitimes, en disant oh, « c'est des frileux, ils ont peur ». Non, il faut entendre ces réserves, car elles sont fondées. Pourtant, en même temps, il faut bien voir qu'une telle méfiance à l'égard du politique est dangereuse pour la communauté humaine. Elle risque d'abord de nous faire perdre de vue l'acquis que représente l'avènement d'un pouvoir politique démocratique autonome, indépendant de toute tutelle, à commencer par les tutelles religieuses. L'avènement d'un pouvoir politique capable de garantir la liberté et l'égalité des citoyens, le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, la solidarité dans la paix et dans la justice. Quelle peut être alors, et c'est notre question de ce soir, quelle peut être alors la contribution des religions et plus particulièrement des églises à cette construction de la cité, de la police, pour reprendre le terme grec qui a donné le mot politique. La politique, c'est les affaires de la cité, c'est les affaires de la communauté humaine. D'autant que nous vivons, et nous en parlerons, dans une société laïque qui a tendance à faire de la religion, particulièrement en France, une affaire privée et qui, du coup, empêcherait les religions et les églises d'intervenir dans l'espace public. Alors, les églises doivent-elles se contraindre au silence? Et leur témoignage dans la société peut-il éviter toujours et totalement une dimension politique? Pour tenter de reprendre ces réserves que je livre en introduction, tout ce qui a tendance à contribuer à une décrédibilisation ou à une disqualification du politique, pour tenter de répondre aussi à ces questions sur l'articulation entre les églises et l'espace public, je vous propose d'avancer en trois étapes. Dans la première partie, puisqu'il m'a été demandé une position en théologie protestante, hein, je dirais comment le protestantisme pense, s'efforce de penser l'articulation entre foi et politique. Dans un deuxième temps, j'aborderai bien sûr la question de la laïcité française, et du défi qu'elle représente pour ce témoignage public des Églises. Enfin, dans la troisième partie, j'indiquerai les apports possibles des Églises à la société. Première partie donc, le rapport de l'Église au champ politique. Concernant ce rapport, on a le sentiment, quand on regarde l'histoire, quand on se tourne vers le passé, que les Églises ont toujours oscillé entre deux tentations, celle de gouverner le monde ou celle de le fuir. Tantôt en effet, elles se sont compromises avec les pouvoirs politiques en place, mêlant le spirituel et le temporel, utilisant la foi, la théologie, comme une instance qui viendrait légitimer, d'une certaine manière, des certaines dérives tragiques. Théocratie, guerre de religion, vous connaissez l'histoire. Mais parfois, au contraire, elles ont posé une sorte de césure, une séparation absolue entre la foi et les affaires du monde, le monde étant considéré comme impur, voire maudit. Cette forme de séparation a pu déboucher, je l'ai déjà évoqué, sur une privatisation de la foi et parfois un retrait hors de l'histoire. Et là aussi, on en connaît des exemples, hein, le fameux film Witness hein, sur les Amish, hein, cette tentation de se retrouver dans une communauté de purs qui, pour rester purs, se retire du monde. Est-il alors possible de surmonter cette double tentation en s'efforçant de relier les convictions croyantes et les engagements au cœur du monde? Entre la séparation absolue des domaines spirituels et politiques et leur totale confusion, le protestantisme, pour sa part, opte pour une troisième voie, qui est celle de la distinction des deux domaines et en même temps de l'articulation entre ces deux réalités sur le mode d'une tension toujours féconde, critique, mais aussi parfois douloureuse. Qui dit tension dit parfois une difficulté à l'assumer. Alors je fais ici une petite parenthèse pour vous inviter quand même à regarder ce tableau qui a été préparé, si j'ai bien compris, comme chaque année à l'occasion de la semaine thématique. Et j'ai trouvé que la personne qui l'a réalisé avait eu au fond une belle inspiration et que ce que je vais partager avec vous ce soir est assez bien montré. Finalement, on voit bien que là, il n'y a jamais confusion entre ces deux brins qui se tricotent, parce qu'il faut bien qu'ils vivent ensemble, la religion et le politique. Il y a des moments où ils s'écartent très visiblement, il y a d'autres moments où ils se rapprochent et où ils se croisent, mais sans jamais se confondre, ni sans jamais se séparer complètement. Et puis, je ne sais pas, mais je trouve que cette fin où ils ont tendance à se rapprocher, mais sans qu'on connaisse vraiment comment l'histoire se termine, peut-être pointe vers l'avenue d'un royaume où là, toutes choses nous apparaîtront clairement et où peut-être ces débats entre politique et religion trouveront leur aboutissement. En tout cas, je ne sais pas si ce monsieur est là ce soir, mais en tout cas, je voudrais que vous lui disiez de manière toute personnelle combien j'ai personnellement trouvé beaucoup de richesse dans ce qu'il a essayé ici de symboliser. Donc revenons à cette tension que je crois souvent critique, parfois douloureuse, mais aussi féconde, entre ces deux domaines, celui du champ spirituel et celui du champ de la politique. Et dans cette première partie, je vais aborder trois points. D'abord, voir comment cette tension est inscrite dans les écritures bibliques elles-mêmes. En effet, si on revient au texte biblique, on découvre, je vais aller un petit peu vite, mais c'est des textes que vous connaissez bien, que le chrétien, il nous est dit qu'il est citoyen d'une patrie céleste. « Car notre cité à nous est dans les cieux », dit Paul aux Philippiens. Et l'Épître aux Hébreux affirme « Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future ». Cette citoyenneté spirituelle qui est reçue en Christ par la foi fait du croyant un étranger dans ce monde. On lit dans la première Épître de Pierre « Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers ». Toutefois, si le chrétien est citoyen du royaume et donc étranger sur cette terre, il est aussi citoyen à part entière de ce monde. Ce monde, nous dit l'évangéliste Jean, que Dieu a tant aimé. Monde dans lequel le croyant est appelé à vivre. Non seulement à vivre, mais à témoigner de l'amour du Christ, même s'il n'y est que de passage. Il doit donc, et c'est aussi d'autres passages bibliques qui nous le disent, il doit donc respecter autant que possible les lois et les usages des lieux où il séjourne. Alors on pourrait renvoyer ici notamment à la première épître de Pierre où au chapitre 2 sont repris les codes de la société en vigueur auxquels le chrétien doit se conformer. Devoir envers les autorités, devoir des serviteurs à l'égard de leur maître, devoirs conjugaux, exigences communautaires. Comme le dit l'évangéliste Jean, le croyant est dans ce monde sans être de ce monde. Et du coup on voit se développer deux logiques qui ne s'articule pas toujours facilement, je l'ai dit, dans la vie du chrétien, et la Bible semble toujours traversée de deux courants contradictoires quant au rapport aux politiques. D'une part, un courant de méfiance, donc de vigilance, à l'égard des pouvoirs politiques. À cause de sa foi, le chrétien ne considère jamais comme absolu les instances de ce monde. C'est cela qui lui permet justement de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu, précisément parce que César n'est pas Dieu. Alors quand les hommes ont tendance à surévaluer ou à sacraliser le pouvoir politique, il y a toujours dans la Bible une parole théologique critique qui vient en interroger en quelque sorte la légitimité. On peut notamment penser aux discours et aux attitudes des prophètes à l'égard des rois dans le Premier Testament. Et également dans le Nouveau Testament, au célèbre passage du livre des Actes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, un courant de méfiance et de vigilance à l'égard du politique. Mais on trouve aussi dans la Bible un courant qui reconnaît la légitimité des autorités humaines, qui appelle respect et obéissance à l'égard du politique. Puisque, au fond, la finalité du pouvoir politique, c'est la protection et le bien des gens, et donc la répression de ceux qui font le mal. Je cite l'Épître aux Romains, « Il importe d'être soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par Dieu. » Romains 13. La première épître à Timothée ajoute à l'idée de respect dû aux autorités celui de la prière pour elles, afin qu'elles remplissent bien leur tâche, qui est de permettre aux hommes, et naturellement aux chrétiens, de mener, je cite la première à Timothée, « une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. » N'oublions pas ça, c'est très loin, mais pourtant, c'est nous, ça. Une des choses qu'apporte la laïcité, on va y venir, c'est permettre à chaque culte de pouvoir vivre sa foi paisiblement. D'autres textes, d'ailleurs, nous montreraient que, de toute façon, le croyant qui témoigne de l'Évangile ne peut échapper aux politiques au sens large et étymologique. Parce que la foi chrétienne est foi en un Dieu qui s'est incarné dans l'histoire, elle concerne l'être humain dans toutes ses dimensions. L'événement personnel de la foi ou du salut a donc inévitablement des effets sociétaux. Dans la prédication de dimanche, je suis parti d'un texte du livre des Actes, au chapitre 16, qui montre bien cela, mais vous pouvez aussi lire le chapitre 18, qui montre quelque chose d'assez analogue. On voit Paul poser une parole de libération, un acte de libération, il est dans une mission purement spirituelle, et on voit que, par contre-coup, cette annonce du salut, cette mission spirituelle, va avoir des effets sociaux, sociétaux, politiques même, puisque les autorités elles-mêmes vont en être bouleversées. On ne saurait donc réduire la foi à une affaire privée. Cette position-là est tout simplement impossible. À la limite, la question va dire, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre religion et politique ? Il y a de toute façon un lien. Et les unes des journaux nous le montrent tous les jours. Il y a inévitablement un lien. La question, c'est comment se fait l'articulation entre les deux domaines. C'est un très rapide parcours biblique. Mon deuxième point de cette première partie sera pour dire un mot, il le faut bien, si près de Genève, de nos réformateurs. Mais je ne parlerai pas d'abord du Genevois, je vais d'abord voir comment Luther articule ces deux dimensions. Alors pour Luther, cette tension qui traverse les Écritures, elle s'exprime à travers une doctrine qui s'appelle la doctrine des deux règnes, que je résume schématiquement. Le chrétien, parce qu'il est sous le règne du Christ, ne devrait pas avoir besoin de règles pour faire le bien et aimer son prochain. Nous sommes tous convaincus de cela, n'est-ce pas ? Toutefois, même justifié, le croyant reste un humain comme les autres, sous l'emprise du péché avec ses conséquences. Et donc, il participe toujours aussi du règne du monde. C'est pourquoi il a besoin des règles de la société dont il est membre pour vivre dans la justice et dans la paix. D'où, pour Luther, l'importance et la légitimité de l'autorité temporelle qui, par la contrainte de la loi civile, empêche les hommes de commettre le mal. La loi exerce ici une fonction politique. Mais pour Luther, il est clair qu'il ne faut pas confondre, justement, là encore, les deux règnes, le spirituel et le temporel, même si, dit-il, Dieu est le maître de l'un et de l'autre. Cette non-confusion entre le règne du Christ et le règne du monde, c'est finalement ce qui garantit la liberté du chrétien, d'une part, et de l'autre côté, la liberté du politique, son autonomie. Le croyant respecte, soutient les autorités civiles dans la mesure où elles contribuent au service du prochain en protégeant les faibles et en assurant la justice. Mais le pouvoir temporel ne doit pas s'ingérer dans le domaine spirituel ni contraindre les consciences. Je ne dirais pas que la laïcité est déjà chez Luther, mais vous voyez quand même, on commence à s'en rapprocher. Le politique n'a pas le droit de s'ingérer dans le domaine spirituel. Mais inversement, le pouvoir spirituel ne doit pas chercher à imposer au monde une quelconque solution chrétienne. C'est-à-dire vouloir dominer l'ordre temporel au nom de l'Évangile, car ce serait faire de l'Évangile une loi. L'Évangile n'est pas une loi, même pas une loi morale. C'est autre chose. Pour lui, pour Luther, l'important demeure d'abord et avant tout le renouvellement de la vie chrétienne. Et je vous cite cette belle phrase, « Avant de vouloir gouverner le monde chrétiennement, veille donc à le remplir de chrétiens authentiques. » Je trouve que c'est un bel ordre de mission pour chacun d'entre nous. Venons-en au réformateur genevois Calvin. Alors, contrairement à ce qu'on pense parfois, vous savez, il y a des choses comme ça qui circulent, on dit, ah non, mais il y a Luther, et puis Calvin, lui, c'est un théocrate. Mais Calvin, il dit à peu près la même chose que Luther, et il connaît aussi, ce que l'on oublie souvent, la doctrine des deux règnes, sauf qu'il distingue, il parle, lui, de juridiction spirituelle et de juridiction temporelle, ou encore de royaume spirituel et de royaume civil, mais c'est exactement le même schéma. Il considère, comme Luther, qu'il y a une autonomie et une dignité du politique, qui joue un rôle positif dans l'aménagement de la cité humaine. Il insiste lui aussi sur le rôle de la loi civile, qui peut empêcher, je le cite, « que toute chose ne soit renversée en confusion, ce qui serait si tout était permis en chacun ». Calvin développe en conséquence une réflexion très rigoureuse sur le devoir d'obéir aux autorités parce qu'elles sont voulues par Dieu, à la limite, et c'est parfois là-dessus qu'il est parfois un peu critiqué, à la limite qu'elle soit juste ou injuste. En même temps, il y a des brèches dans cette logique légitimiste. Il y a un passage très court, hein, mais quand même, dans un passage célèbre de l'institution chrétienne, Calvin va ouvrir clairement la possibilité d'une résistance des magistrats inférieurs, je le cite, « pour s'opposer à l'intempérance ou à la cruauté des rois ». C'est assez intéressant parce que ce n'est pas dominant dans l'œuvre de Calvin. Calvin, c'est quand même, sur le plan politique, un légitimiste qui dit « il y a un ordre qui est voulu par Dieu, on le respecte ». Mais pourtant, il y a dans son ouvrage majeur cette petite incise-là, cette potentialité critique, comme l'a écrit quelqu'un, qui dit « oui, mais quand même, quand le pouvoir devient tyrannique, alors les inférieurs ont le droit de résister aux ordres du supérieur ». Alors, notons au passage que c'est dans cette brèche ouverte par Calvin que s'engouffreront un certain nombre de ses héritiers, enfin de ses collègues d'une certaine manière, et je pense notamment à Théodore de Bèze, qui lui prônera carrément le droit de résistance au tyran, ce que Calvin n'a jamais fait. Même quand l'Église de France était persécutée et qu'il y avait des volontés de révolte, de lutte armée, il écrivait aux protestants de France pour dire « ne résistez pas par la force et par la violence au pouvoir, même si vous le considérez comme injuste ». Petit parcours biblique, petit parcours chez les réformateurs. Aujourd'hui, dans l'Église protestante unie de France, on a l'habitude de décliner cette tension, cette distinction, en parlant de double citoyenneté. On retrouve d'une certaine manière le vocabulaire du Nouveau Testament. Le chrétien est considéré comme citoyen à part entière de ce monde qu'il est appelé à construire. Cette citoyenneté séculière implique que le chrétien prenne en charge les responsabilités qui lui incombent en fonction des places et des rôles qu'il assume dans la société et à partir des convictions croyantes qui sont les siennes. Il doit se savoir responsable de l'espace public, de sa définition, de son aménagement, de son maintien. Donc d'une certaine manière, le chrétien est appelé à faire de la politique au sens large, au sens le plus noble de ce terme. C'est-à-dire s'intéresser aux affaires de la cité. Ce service de la cité est une fonction fondamentale pour la coexistence humaine et il vaut la peine de l'exercer sous quelque forme que ce soit, qui peut varier d'un individu à l'autre, comme citoyen, comme électeur, mais aussi éventuellement comme élu, comme fonctionnaire, comme magistrat. Il ne s'agit pas que les chrétiens retournant à leurs erreurs passées prétendent régenter la société, en voulant imposer à tous leur morale, mais si les églises n'ont pas de leçons à donner aux responsables politiques, ni de programmes à leur offrir clé en main, elles ont à les encourager dans leur mission, leur en rappelant la noblesse et leur rappelant que c'est un service, c'est-à-dire aussi prier pour ces autorités politiques, les accompagner de façon constructive, vigilante et loyale. Et je pense notamment, et nous l'oublions souvent, me semble-t-il, dans l'Église, à ceux des membres de cette Église qui ont choisi cette militance politique et cet engagement politique comme un service de la communauté humaine. Or, parfois, le politique est tellement tabou dans l'Église que ceux qui ont choisi cette voie-là pour s'engager sont un peu les oubliés Et du coup, ils sont parfois tellement oubliés qu'ils quittent l'Église sur la pointe des pieds. Car lorsque, un État se définit comme un État démocratique, il est en droit d'attendre de ses citoyens qu'ils fassent preuve de loyauté à son égard, en participant à ses institutions, en respectant ses procédures et en se soumettant aux décisions prises. Cette loyauté est très chère, ils n'en ont pas le monopole, mais elle est très chère aux protestants. Et elle constitue la base de confiance mutuelle nécessaire au bon fonctionnement de l'État. En tout cas, je crois vraiment que les églises ne sauraient mépriser la tâche politique, ni prendre leur parti du discrédit et de la dérision parfois qui aujourd'hui l'accable, et encore moins y contribuer, car tout cela constitue une menace grave pour la démocratie, au moment où celle-ci doit faire face à des défis considérables. Mais en même temps et fondamentalement, le chrétien est citoyen du royaume. Cette citoyenneté spirituelle qui le fait, je l'ai dit, étranger sur cette terre, le rend libre du coup à l'égard des réalités de ce monde dont il ne fera jamais, il ne doit jamais faire des idoles. Il ne saurait donc tout attendre du politique ni l'absolutiser. L'ultime pour lui ne réside pas dans les réalités de ce monde, ce ne sont là que des réalités avant-dernières. C'est pourquoi le protestantisme a toujours manifesté méfiance et distance critique à l'égard de toute forme de politisation du message chrétien et de l'Église. Par exemple, lorsque des déclarations des Églises ou de leurs autorités ou de leurs pasteurs risquent d'être perçues comme un pur et simple alignement sur des positions idéologiques ou sur des politiques partisanes. Aussi considère-t-on, au régime protestant, que l'Église en tant que telle ne doit pas faire de la politique, ce qui exclut a fortiori toute confusion entre l'Église et un parti politique, quel qu'il soit. L'Église unie de France va même jusqu'à interdire à un pasteur d'être candidat pour un mandat électif. Et s'il a envie de le faire, il doit démissionner de son poste. Ce n'est pas le cas de toutes les églises protestantes, mais je souligne celui-ci, puisque c'est mon église, c'est dire à quel point il y a une méfiance vis-à-vis de tout risque d'embrigadement politique par ceux qui exercent une autorité ou un ministère. D'autant que le chrétien sait bien que le politique n'est jamais parfaitement juste. Stéphane Tremblay disait « c'est souvent le moindre mal ». C'est bien pourquoi le politique doit être respecté, mais en même temps il ne doit jamais être livré à lui-même sans instance critique pour l'interpeller. C'est pourquoi, tout en respectant son autonomie, les chrétiens et les églises s'efforceront toujours d'introduire du débat, du jeu, des questions dans la vie sociale. C'est pourquoi cette loyauté des chrétiens citoyens, le synode de 1998 l'avait dit, est une loyauté, mais une loyauté critique. Lorsque les écarts entre le droit et sa mise en œuvre deviennent intolérables, quand ils génèrent des injustices, il est légitime de rappeler au pouvoir politique les principes mêmes dont il veut s'inspirer. La critique ainsi n'a rien de déloyal en elle-même, même si évidemment certains politiques l'insinuent lorsqu'ils sont excédés par la contestation. Et en la matière, je puis vous assurer qu'il n'a jamais manqué de ministres de gauche comme de droite pour rappeler aux églises qu'elles devraient s'occuper des affaires du ciel et laisser celles de la terre aux autorités responsables. Or, il s'agit ici d'alerter, il s'agit ici d'interpeller au nom de l'Évangile. Il s'agit d'avoir un rôle de sentinelle, comme le disait Jacques Ellul, c'est-à-dire de manifester en parole et en acte, et l'histoire de l'Église est pleine de ces actes-là, des formes de vigilance et parfois de résistance. En particulier quand dans la foi et devant Dieu, le croyant considère que la vie du monde est en danger ou que la dignité de la personne est menacée. Mais cela est-il acceptable dans une société laïque comme la nôtre? C'est ce que je voudrais aborder dans ma deuxième partie, le défi de la laïcité française. Et j'aborderai deux points dans cette deuxième partie. Dans le premier point, je voudrais partir de la laïcité comme une réalité à défendre, mais aussi à interroger. Rappelons d'abord, avant de parler de la laïcité française, que nous n'en avons pas le monopole, que d'une manière générale, ce terme de laïcité désigne la fin du pouvoir des religions sur les individus et sur la société. C'est ça la laïcité. C'est l'avènement d'un espace politique, public, autonome, organisé selon des logiques séculières. Il n'y a pas besoin d'être français pour vivre ça. Il y a bien d'autres pays dans le monde qui vivent cette séparation et qui ne vivent pas sous le régime de la laïcité française. En France, l'avènement de cet espace politique autonome a pris, pour des raisons historiques, une forme particulière, particulièrement conflictuelle. Et les protestants français, il y a une magnifique exposition au premier étage qui le montre bien, sont très attachés à cette laïcité française. Et pour deux raisons. La première est une raison historique. En effet, pour les protestants français, dans une France dominée par le catholicisme, de manière à l'époque hégémonique, il faut bien le reconnaître, la laïcité a été pour les protestants la promotion d'une liberté, la possibilité d'exister publiquement et civilement. Et ce n'est donc pas un hasard si bien des protestants ont été au XIXe siècle des acteurs de la République laïque autour de Jules Ferry, Ferdinand Buisson, Jules Steck, Félix Pécaud, et s'ils furent en 1905 parmi les artisans de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est un protestant, M. Méjean, qui a écrit cette loi et qui a d'ailleurs vécu ça, écrit-il, à la fois comme faisant son devoir d'État, de grand magistrat, de haut fonctionnaire, et en même temps comme un engagement de chrétien. Donc, les protestants y sont attachés pour cette raison historique. Mais ça correspond aussi chez eux à une conviction théologique. En effet, on peut dire que la Bible, en tout cas telle que les protestants la lisent et la comprennent, témoigne de ce que j'appellerais une désacralisation de l'univers qui est en rupture avec toutes les formes de sacralisation des religions environnantes. Dans l'environnement de la Bible, tout était Dieu. Il y avait du Dieu partout, un arbre, un animal, tout était sacré, il fallait toucher à rien. Et ce qu'annonce le premier Jean, et alors on voit ça très fort dans les premiers récits de la Genèse, c'est que seul Dieu est sacré. Seul Dieu est saint, et tout le reste est profane. Seul Dieu est saint, nul ne peut mettre la main sur lui, il se révèle à nous par sa seule parole. Le croyant est appelé à lui répondre, mais les réponses que le croyant donne dans la foi ne sauraient s'imposer à tous. Ainsi, pour les protestants, on ne peut tirer de la Bible aucun savoir universel dans le domaine social, culturel, scientifique, politique. Aucune église, aucune religion ne peut prétendre avoir légitimité ou compétence pour se poser en quelque sorte en autorité morale ultime. De ce point de vue-là, le protestantisme est effectivement dans une position différente du catholicisme où on connaît, vous me direz si je me trompe, où on dit que l'église est experte en humanité. Le protestantisme ne prétend pas que l'église protestante est experte en humanité. Il pense qu'aucune église, qu'aucune religion... Dans la foi, on peut le penser, on peut le croire, mais on ne saurait l'imposer à tous. Aucune n'a les clés de la culture ou de la civilisation. Le monde est émancipé des tutelles religieuses. Et quand on regarde l'histoire passée et l'histoire présente, on mesure à quel point cette laïcité est nécessaire et à quel point elle constitue un acquis décisif face à toute forme de domination ou d'hégémonie des religions protégeant la société des fanatismes et des intolérances de tous ordres. Et j'ajoute, et pas seulement religieuses. Dès lors que des vérités se posent comme absolues. Vous savez, ces vérités à majuscule, la raison, le progrès, la République, la laïcité elle-même. J'ose dire qu'il y a une nécessaire laïcisation de la laïcité. Dès lors qu'elle se pose elle-même comme une sorte d'idéologie ou d'idole, qu'elle se pose comme absolue, absolue, absolus, à partir de soi seule. En même temps, l'on ne peut, au nom de la laïcité, accuser d'intolérance toute expression publique d'une conviction, y compris spirituelle. Or, du fait de cette histoire que j'ai brièvement évoquée, d'une certaine manière, la laïcité française s'est construite de façon anticléricale et antireligieuse. Et on voit bien comment dans les médias, dans le monde politique, elle est constamment évoquée aujourd'hui par les politiques de tous bords pour s'opposer aux religions. et en tout cas pour leur refuser une expression dans l'espace public. Pourtant, une telle position, et je veux le dire brièvement, mais très fortement, une telle position qui renverrait les églises dans la seule sphère privée me paraît discutable et doit être discutée au regard des textes fondateurs de la laïcité et notamment de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. En effet, cette loi n'est d'aucune manière une loi de privatisation de la religion. Elle exprime au contraire les conditions juridiques de la liberté de conscience et de la liberté d'exercice public des cultes qu'elle garantit sous les seules restrictions, je cite la loi, de l'intérêt de l'ordre public. C'est-à-dire, vous pouvez vivre pour autant que dans la manifestation publique de votre foi, vous ne portez pas atteinte à l'ordre public. Et d'ailleurs, l'article 18 parle du libre exercice public d'un culte. Donc, il ne s'agit pas ici d'une privatisation d'aucune manière de la foi, en tout cas de la vie des églises, mais au contraire de l'organisation explicite de son culte public. La laïcité ne saurait donc mettre les croyants en congé de l'histoire, ni exiler les églises hors de l'espace public. Je pense même, c'est pour ça qu'il faut interroger la laïcité, que lorsqu'on ne sait plus faire une place aux religions dans la société, pour y vivre leur foi dignement et au grand jour, c'est-à-dire quand on les contraint à l'obscurité, eh bien c'est là qu'on les jette dans les bras de l'obscurantisme, et que du coup, on menace la paix civile. Il est donc normal et nécessaire que s'expriment dans l'espace public des convictions spirituelles, éthiques et théologiques. Et j'en viens à mon deuxième point de cette deuxième partie, les églises dans l'espace public. Aujourd'hui, cette expression « espace public », elle est souvent employée, moi-même je l'utilise souvent, elle est dans le titre. En fait, c'est un concept relativement récent qui a été fortement mis en avant, étudié, exprimé par un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas. Et je pense que cette notion d'espace public est particulièrement féconde pour renouveler aujourd'hui notre compréhension de la laïcité, la manière dont les églises peuvent y trouver leur place et finalement l'organisation même de la vie démocratique. Qu'est-ce que c'est pour Habermas l'espace public ? Il dit l'espace public, c'est cette sphère intermédiaire entre le pouvoir politique, voire le pouvoir étatique, et les individus de la société civile. L'espace public, c'est en somme la place publique d'antan. C'est l'ensemble des lieux où, dans une société donnée, on se rencontre, on discute, on débat, et où peuvent s'exprimer, même publiquement, des opinions personnelles concernant les affaires, la politique, la religion, les loisirs. Un lieu où peuvent se confronter des positions diverses. Mais à force de se confronter et de se rencontrer, c'est aussi là que peuvent s'élaborer les convictions communes qui vont permettre demain de vivre ensemble. Nous sommes ce soir un bout de l'espace public, parce que la parole de chacun est libre. Pour l'instant, il n'y a que moi qui parle, mais dans un moment, vous pourrez poser des questions, dire que vous n'êtes pas d'accord, vous avez d'autres idées sur la question. Nous sommes un bout d'espace public et nous allons passer un moment ensemble où nous allons peut-être discuter de tel ou tel point, peut-être tomber d'accord, peut-être pas tomber d'accord. Et Habermas montre bien que si aujourd'hui le politique s'exténue, c'est parce que précisément entre le privé, comme je le disais en introduction, qui devient une valeur refuge, et le monde étatique qui tourne sur lui-même, il n'y a plus ce lieu qui était le lieu où le politique justement peut se nourrir, où il peut comprendre et entendre un certain nombre de revendications, d'attentes, de critiques, d'aspirations. Il suffit de voir le rôle qu'on jouait, que ne joue plus un certain nombre de lieux associatifs, par exemple, dans notre société. Commencer par les églises, les mouvements de jeunesse, les syndicats dont on dit qu'ils sont en crise. C'est, tout ça a été des lieux où finalement se discutaient, mais aussi s'élaboraient des positions communes. Et je trouve qu'un homme politique a dit un jour, à parler de la France d'en haut et la France d'en bas, ben, finalement ça illustre assez bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une France d'en haut et une France d'en bas, mais entre les deux, il n'y a plus cet espace de délibération et de construction possible d'une visée commune. Il appartient donc à chaque individu, chaque groupe, chaque communauté religieuse, chaque famille de pensée, mais aussi chaque église, de se faire entendre dans cet espace public, sans prétention, mais sans timidité non plus. Et je crois que c'est ainsi que cet espace public revigoré peut contribuer à enrichir une démocratie représentative de délégation, dont il faut bien reconnaître qu'elle est aujourd'hui bien essoufflée, par une démocratie de la délibération, et permettre à la société de demeurer une société ouverte, c'est-à-dire une société qui s'efforcera toujours de prendre en compte de manière tolérante la diversité des opinions, des cultures, des options de vie, en offrant des lieux de débat public, de libre discussion et d'intégration des différences, en vue d'un aménagement, peut-être pas le meilleur, mais le moins mauvais possible, de la coexistence humaine. Alors il ne s'agit pas que les églises interviennent tout le temps, ni qu'elles se constituent en groupe de pression. Leur contribution doit rester de l'ordre de la proposition et non d'une parole qui se voudrait infaillible, hégémonique ou normative pour l'ensemble de la société. J'aime bien ce qu'avait écrit il y a quelques années le rabbin Gilles Bernheim dans son livre « Un rabbin dans la cité ». Il disait au fond « La grandeur d'une religion réside dans sa capacité à donner à penser à ceux qui ne croient pas en elle ». Et finalement, je crois que ça résume bien ce que pourrait être la place des religions et des églises. Donner à penser, et pourquoi pas aussi donner à croire, à ceux qui cherchent une parole d'espérance pour eux. L'expression publique des églises est donc non seulement possible dans la société laïque, mais elle est légitime et nécessaire, à condition qu'elle ne prétende pas gouverner la société selon des normes chrétiennes, mais qu'elle s'efforce de contribuer avec d'autres à la construction d'un projet commun. J'en arrive à mon troisième point, quelles pourraient être comme ça des pistes, des modalités de cette parole publique des églises dans l'espace de la société. Et je vais décliner brièvement cinq modalités de cette parole, de cette présence, de cette action des églises dans l'espace public. Première modalité, ce que j'appelle la modalité culturelle. Et notamment, pour viser de rendre à la société sa mémoire biblique. En effet, la Bible est une des composantes essentielles de notre culture, un réservoir de récits, de figures, de symboles, qui a alimenté pendant des siècles la créativité culturelle de l'Occident, qui a inspiré des pans entiers de notre civilisation. Aujourd'hui, la Bible est de plus en plus, pour nos contemporains, un texte inconnu. Or, comment percevoir ce qu'expriment les vitraux de la Sainte-Chapelle, les cantates de Bach, les toiles de Rembrandt, la peinture de Chagall et bien d'autres pages que connaissent mieux que moi les professeurs de littérature ou d'histoire? Comment les comprendre sans la connaissance des références bibliques qui les nourrissent? Faire découvrir la Bible, la faire lire au plus grand nombre, mais je sais qu'il y a eu ici, il y a quelques années, une exposition biblique, constitue, je crois, une responsabilité essentielle et particulière de tous les chrétiens, bien sûr, mais en tout cas, je pense, des protestants, sola scriptura, l'écriture seule, il ne suffit pas de l'affirmer et de le proclamer, mais il faut aussi le mettre en œuvre dans une société qui a perdu sa mémoire religieuse, et notamment biblique. Il est urgent de pallier cette ignorance, faute de quoi c'est la culture elle-même qui devient indéchiffrable. Et je rappelle ici ce rapport, malheureusement resté sans suite vraiment concrète, mais quand même avait fait date, de Régis Debray, qui est pourtant, si je puis dire, un grand laïc devant l'Éternel, et qui avait prôné l'enseignement du fait religieux dans l'école, y compris bien sûr dans l'école publique, puisque c'était un rapport au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Car c'est aussi dans cette connaissance, dans cette reconnaissance que peuvent tomber un certain nombre de peurs qui aujourd'hui débouchent sur l'exclusion et la violence. Bien entendu, cette tâche culturelle implique aussi plus largement pour les églises de témoigner de l'Évangile dans le dialogue avec la culture, la science, la pensée, les savoirs contemporains et toutes les formes de la modernité. Deuxième modalité, ce que j'appelle la modalité pédagogique. En effet, au cœur d'une société en manque de liens, il me semble que les églises, et je pense là aux églises protestantes, mais elles n'en ont pas le monopole pour ces différentes modalités, pourraient être des communautés d'apprentissage où l'on apprend à vivre avec les autres, à vivre ensemble, c'est-à-dire à respecter l'autre dans sa singularité tout en gardant la visée commune. C'est-à-dire montrer qu'on peut vivre ensemble sans être tous pareils. Et ce n'est pas pour flatter l'ego des protestants que de dire que nous avons dans notre besace quelques arguments en la matière, puisque finalement, nous vivons en permanence dans les églises protestantes sur un modèle d'unité dans et par la diversité. Tout au long de notre histoire, nous avons appris que l'on peut vivre ensemble, qu'on peut même être communion ensemble à cause du Christ, sans être tous identiques. Eh bien, je me dis que nous pourrions aussi, modestement, offrir cela à une société multiculturelle, pluraliste, menacée souvent de fragmentation, et qui justement recherche, par-delà ses particularismes, par-delà ses communautés, des modalités pour vivre ensemble. Vivre ensemble dans l'espace présent, en s'enrichissant des différences, mais apprendre aussi à vivre avec les autres dans le temps, pour renouer les fils nécessaires de la transmission, et permettre à chacun de s'inscrire dans une histoire, dans une communauté d'appartenance, dans une tradition. Sur ce registre pédagogique, je souligne aussi l'importance fondamentale des dialogues interreligieux et de l'engagement commun de toutes les religions dans le champ social. Non pas en vue, comme on le pense parfois ou comme certains en rêvent, de quelques syncrétismes improbables, mais simplement pour contribuer à la construction d'une société pluraliste, prenant en compte à la fois le respect des différences et la visée commune. Nous savons bien que c'est dans cette découverte mutuelle au sein des dialogues religieux, interreligieux, que peuvent se déconstruire les peurs qui se nourrissent de l'ignorance de l'autre. On a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et la première mission des dialogues interreligieux, et vous voyez bien le rôle qu'ils peuvent jouer dans la société, c'est de permettre cette connaissance mutuelle qui peut faire baisser les peurs, les craintes, les formes d'intolérance, de fanatisme, de violence et d'exclusion. Troisième modalité, la modalité diaconale. La parole dont l'Église est porteuse est une parole qui s'incarne concrètement dans l'histoire. Et là, il ne s'agit plus seulement de parler, mais d'agir dans l'espace public. Cette cohérence entre le dire et le faire est ressentie pour ceux qui sont souvent à l'extérieur de l'Église comme un gage de crédibilité. Vous connaissez le reproche tant de fois entendu à propos des croyants, ils disent et ne font pas. Cela concerne tous ces tâches diaconales, mais aussi caritatives, tous ces engagements humanitaires qui se mettent en place dans les églises, ou à partir des églises, ou à partir des fidèles des églises, tous ces lieux où se vivent l'entraide, la solidarité, l'accueil, pour faire face, souvent dans l'urgence, de manière provisoire parfois, souvent, aux nouvelles formes de pauvreté, d'injustice, de marginalisation, d'exclusion. Tous ces lieux où l'on essaye patiemment de recréer du lien, du sens, de la solidarité, au cœur de la cité, c'est-à-dire au cœur du politique, notamment auprès des plus fragilisés. D'autant que celles et ceux qui sont engagés dans ce lieu-là le savent bien que derrière les sollicitations matérielles se cachent aussi souvent des blessures psychiques, des besoins affectifs, des attentes de reconnaissance, où chacun réclame d'être accueilli tel qu'il est, et pas forcément comme on voudrait qu'il soit. Et notamment face à la montée des peurs qui font le lit des extrémismes racistes et xénophobes, nos églises peuvent être des lieux où nouer ces relations d'accueil, d'écoute, de proximité, où les questions et les inquiétudes de chacun ne sont pas jugées, mais sont d'abord nommées et portées devant Dieu dans la prière. Quatrième modalité, la modalité éthique et théologique. Il s'agit ici de la participation des églises à tous ces lieux de l'espace public où s'élaborent les références communes de la société, c'est-à-dire les compromis qui façonnent le vivre ensemble social. Le mot compromis a souvent mauvaise presse parce que de compromis à compromission, il n'y a qu'un pas, en général, pense-t-on, mais laissons la compromission de côté. Le compromis, c'est un mot qui dit la promesse possible de tenir ensemble ce que l'on croyait jusqu'alors incompatible. C'est ça le compromis. C'est la promesse que l'on va pouvoir tenir ensemble ce que l'on croyait incompatible. Et nous savons bien qu'en la matière, les sollicitations ne manquent pas de la part des médias, parfois des autorités politiques, et donc les églises n'ont pas à se dérober. Toutefois, je voudrais dire ici qu'elles ne sauraient en rester sur ce seul registre de l'éthique, c'est-à-dire celui de la morale commune. Alors même que, en tout cas, les protestants affirment qu'en la matière, chaque croyance se détermine en conscience, de manière libre et responsable, à l'écoute de la parole de Dieu. La parole des églises protestantes dans les débats de société devrait donc plutôt se situer en amont de la morale, du côté du fondement spirituel qui porte la morale. Et je pense notamment à toutes ces prises de position régulièrement demandées dans le champ de la bioéthique à l'occasion de lois qui se préparent pour préparer ou baliser un chemin. Au cœur d'attentes qui sont, il est vrai, souvent contradictoires, et je voudrais rappeler ce qu'écrivait en substance il y a quelques années France Quéré. Elle disait « Que répondre sur le plan moral ?» Quand on vient solliciter l'enfant qui se refuse ou refuser l'enfant qui s'annonce. Quand on vient réclamer un enfant sans le secours d'un homme vivant ou avec le concours d'un homme mort. Quand on veut l'enfant sans le porter et quand on veut le porter sans le garder. Quand on exige une descendance sans défaut, conforme à son désir ou reproduite à l'identique. Quand on demande d'abréger une vie qui ne serait plus digne d'être vécue ou quand on s'acharne à suspendre une mort dans un pur artifice. Il me semble que devant la complexité des questions qui sont posées ici à la société et aux églises et le poids de souffrance dont ces questions sont lestées, je crois que les églises ne sauraient se contenter d'entrer dans une logique du permis et du défendu. Alors que ce qui est en jeu, c'est d'aider chacun à réfléchir à sa conception de l'humain à la lumière de l'Évangile. Il ne s'agit pas de livrer des réponses toutes faites. Chacun pourra apporter les siennes. Il convient plutôt de chercher déjà à bien poser les questions et à signaler les enjeux, d'accompagner des personnes en souffrance, ce qui est, vous en conviendrez, une tâche autrement plus ardue que de prescrire une morale. Cinquième modalité, la modalité spirituelle. Pour dire que finalement, les églises ont d'abord et fondamentalement à rendre compte de ce qui leur est propre. Parce que tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, les églises peuvent l'apporter de manière spécifique, mais elles n'en ont nullement le monopole. Par contre, ce que personne ne peut faire à leur place, c'est rendre compte de leur foi, de leur spiritualité, de leur relation à une révélation, à une transcendance, rendre compte des rapports que chaque croyant entretient avec Dieu dans son intériorité, l'expression d'une piété, d'une vie personnelle et communautaire. Cette tâche spirituelle est d'autant plus importante que l'on vit dans une société déchristianisée, sécularisée, où nous le sentons bien, on a tendance à se disperser dans le faire, dans l'activisme, dans la superficialité, dans l'éphémère. Et nous sentons bien à quel point il y a là une quête de sens et d'espérance qui doit être accueillie. Cela implique d'oser parler dans nos églises de spiritualité et d'offrir des temps et des lieux permettant à chacun d'entendre une parole pour leur vie, d'ouvrir un espace pour la rencontre avec le Christ. Or, l'acte par lequel, en tout cas pour la théologie de la Réforme, l'Évangile est annoncé et le Christ rendu présent, possiblement, c'est la prédication au sens large. Cette annonce de la bonne nouvelle constitue le premier service public que les églises ont à rendre au monde. Et finalement, cette visée, que j'appelle la visée de la prédication, qui est l'annonce de l'Évangile, devrait être toujours la visée ultime de toutes nos paroles dans l'espace public. Et je repense ici à la citation de Luther que je vous ai dit tout à l'heure, « Avant de gouverner le monde chrétiennement, veille à le remplir de chrétiens authentiques. » Et c'est un texte œcuménique récent sur la laïcité qu'il rappelait à son tour. Et parce qu'il est œcuménique, je le rappelle. La prédication de la bonne nouvelle reste l'apport particulier des églises à la société contemporaine, leur tâche spécifique que personne ne peut accomplir à leur place. C'est d'ailleurs dans la mesure où l'intervention des églises est fermement construite autour de cette prédication de l'Évangile et ainsi clairement identifiée qu'elle se montre paradoxalement la plus respectueuse de la laïcité. J'en viens à quelques mots de conclusion. Pour rappeler que dans cette parole publique des églises, il ne s'agit jamais, jamais de prétendre imposer, mais de proposer, et mieux encore, d'exposer ses convictions, au double sens du verbe exposer, c'est-à-dire de les présenter, mais aussi de les risquer dans la rencontre avec les convictions d'autrui. Une chance de témoigner, d'annoncer, de transmettre que dans ce rapport de réciprocité. Nul ne peut communiquer quoi que ce soit s'il n'est lui-même à l'écoute d'autrui, s'il n'est par avance en acceptation d'être transformé. J'aime cette phrase de Paul Ricoeur qui dit « Si vraiment les religions doivent survivre, il leur faudra renoncer à toute espèce de pouvoir, autre que celui d'une parole désarmée, et faire prévaloir la compassion sur la raideur doctrinale. » Une telle démarche, et je termine là-dessus, requiert conviction et tolérance. Contrairement à quelques idées reçues, la conviction n'est pas forcément l'expression d'une position dominatrice sur le plan spirituel, moral ou intellectuel. La conviction, c'est un engagement de toute la personne envers une vérité qu'on ne cesse de chercher, d'interroger, et en tout cas pour les protestants, de recevoir comme un don. Quant à la tolérance, elle n'est pas l'indifférence. Cette forme de tolérance usée qui tolère l'intolérable. La véritable tolérance est une forme de respect d'autrui et d'intérêt pour autrui, mais elle ne peut se vivre, et c'est en ça que Michelet disait qu'elle a une vertu paradoxale, elle ne peut se vivre justement qu'entre des hommes et des femmes de conviction et de courage. S'il n'y a pas conviction, il n'y a pas besoin de tolérance. Ainsi comprise, conviction et tolérance sont bien, me semble-t-il, les deux conditions indispensables pour les églises, et pas seulement les églises protestantes, pour qu'elles puissent vivre et témoigner dans l'espace public, en s'efforçant de répondre aux défis de ce temps, qui sont, me semble-t-il aujourd'hui, avant tout, des défis spirituels. Je vous remercie.
On regarde sans cesse des débats à la télévision, Les débats sont-ils sincères ou vrais, truqués et manipulés, mais on vit dans une impression de démocratie en étant tous tranquilles devant une télévision. Débat sur débat, que les différentes chaînes de télévision proposent énormément de débats. Mais est-ce cela la véritable vie de l'espace public, comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire se rencontrer, discuter, échanger, débattre, faire des propositions? Est-ce que l'ensemble du monde médiatique n'est pas en train de nous voler cet espace public, certes avec notre complaisance, pour être plus précis, par l'ensemble des radios, des télévisions, voire même de la presse écrite? Et si aujourd'hui dans nos associations, et je le sais parce que je suis présent dans différentes associations, nous sommes de moins en moins nombreux, on le constate, dans les syndicats, dans les partis, dans les églises, oui, mais on finit tous devant un écran de télévision. Et puis alors aujourd'hui, l'écran de télévision, il est encore plus grand, vous voyez, il est immense. On peut s'acheter des écrans qui parfois, les têtes, sont quatre fois plus grandes que la nôtre. Quand on est enfoncé dans le fauteuil, je ne crois pas que ce soit vraiment ça la démocratie. Alors, j'ai pas de solution, mais il est temps de réagir. C'est-à-dire, comment les églises maintenant peuvent être présentes, plus présentes, dans les chaînes de télévision, à la radio, dans les médias? Manifestement, ils seront toujours là. Il faut compter avec les médias. Nous avons été culturellement extrêmement présents pendant des siècles au niveau de la peinture, de l'architecture, de la musique, et subitement, nous sommes, l'ensemble des églises, très absents sur cette explosion médiatique depuis l'après-guerre, depuis les années 50, les années 60. Il nous reste un petit espoir, de plus, de toute façon, nous portons cette espérance, c'est Internet. Faut-il, alors maintenant, question, relancer l'espace public par des sites de discussion, d'échange, de débat par Internet? Est-ce que l'ensemble des églises doit se donner les moyens pour proposer ces espaces de rencontres, voire même des rencontres interreligieuses par Internet? Je ne parle pas tellement pour vous, mais pour les jeunes. On sait qu'aujourd'hui, ces jeunes de 17, 18, 19 ans, ils n'ont que des ordinateurs sur leurs genoux. Ils ne fonctionnent que par les ordinateurs. Nous, nous sommes encore prêts à nous déplacer pour vous écouter, à notre conférencier. On sortira, on quittera notre maison. Manifestement, si on veut toucher, témoigner la bonne nouvelle, il va falloir qu'on utilise un peu mieux l'informatique et Internet. Voilà. Que pensez-vous, si vous pouvez réagir à toutes ces questions. Merci.
Merci beaucoup, mais c'est plus que des questions, hein, c'est des éléments d'analyse tout à fait importants. D'abord, pour dire que les médias, vous l'avez très bien dit, hein, et perçu, pourraient être des acteurs tout à fait essentiels de cet espace public. Ils pourraient avoir une mission tout à fait extraordinaire pour animer ce débat public. Et vous l'avez, je ne peux pas le dire mieux que vous l'avez dit, ils nous volent l'espace public. C'est-à-dire qu'au lieu de l'habiter, au lieu de le faire vivre, au lieu de nous donner les moyens de partager, de confronter nos opinions et peut-être d'en construire ensemble de nouvelles, ils nous proposent tout autre chose. Au lieu de nous aider à comprendre que communication et communion ont la même racine, c'est-à-dire que communiquer, c'est mettre quelque chose en commun, en fait, ils nous proposent leur propre point de vue. Alors, on n'a pas le temps ce soir d'entrer dans une critique des médias, mais il faut la faire. Je trouve que le monde médiatique, enfin, je suis désolé s'il y a d'excellents journalistes, et on a entendu un à midi qui était tout à fait intéressant, mais le monde médiatique aujourd'hui, à mon sens, fait défaillance. Y compris les meilleurs journaux. Enfin, ceux qu'on considère comme des journaux bien informés, etc. Ils ne font plus de l'information, ils commentent en permanence l'actualité. Au lieu de nous donner les éléments pour essayer de comprendre, ils imposent une sorte de doxa médiatique, hein, donc voilà ce qu'il faut croire. Voilà ce qu'il faut croire. Voilà, il parle au nom du peuple. Voilà ce que pense l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on est dans le temps de la réaction et plus de la réflexion. On ne nous donne plus ces éléments-là. Alors, vous les connaissez aussi bien que moi, le simplisme réducteur des médias. Dès qu'une information a été dite, on passe à la suivante et on n'a pas le temps de la réflexion. Une information, on chasse l'autre. Le primat donné à l'émotionnel sur l'intelligence, sur la compréhension, sur l'analyse. Le plus vite possible donner l'information, même si elle est fausse. Après tout, on peut toujours dire après qu'on s'était trompé, mais l'important, c'est d'avoir été le premier. Vous voyez le nombre de fois où tel média dit « Nous sommes les premiers à vous dire que… » etc. CNN dit « Slow news, no news ». Hein, c'est-à-dire si des nouvelles arrivent lentement, c'est plus des nouvelles. Hein, donc ça veut dire qu'il faut en permanence apporter des éléments nouveaux et sensationnels. Alors, je fais une petite incise pour dire qu'alors, les protestants sont particulièrement handicapés par rapport à ça. Pour de mauvaises raisons, leur pudeur incroyable, leur mépris parfois pour la communication, à tort d'ailleurs, parce que Luther a été un formidable communicateur, hein, mais aussi pour d'excellentes raisons. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se renient parfois s'ils veulent avoir accès aux médias. Pourquoi ? Parce que quand un journaliste vient demander, on parlait à table, à un président de conseil prédicteral, à un pasteur, qu'est-ce que vous pensez de telle question ? Ben, le pasteur ou le président de CP dira, vous savez, mon église n'a pas encore discuté de cette question, et puis dans notre église, il y a beaucoup de positions diverses, et en général, on a des positions très nuancées. Et puis si moi, je vous réponds comme pasteur, comme président du CP, vous allez dire les protestants pensent que, alors moi, je ne représente que moi-même, parce que, etc. Enfin, vous n'aurez pas terminé votre démonstration, que le journaliste sera allé voir une autre autorité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, c'est la réalité. L'église catholique est beaucoup mieux équipée que nous. Parce que un journaliste qui veut savoir la position de l'Église, il va voir l'évêque, et l'évêque il lui répond. Et c'est bien ainsi, je veux dire, c'est parce que cette Église fonctionne de cette manière. La gestion de l'autorité et de la légitimité à parler ne fonctionne pas du tout de la même manière dans le protestantisme. Notre souci de collégialité, notre souci de parité, notre souci du respect de chacun fait que nous sommes vraiment des handicapés de la communication moderne. En même temps, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, vous l'avez aussi très bien dit à la fin, de toute façon, si nous voulons annoncer l'Évangile, si nous voulons partager un message, si nous voulons partager une parole, eh bien, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser les moyens qui sont aujourd'hui mis à notre communication. Ce qui veut dire en tout cas, et je sais que dans cette paroisse vous le faites justement, il y a un travail sur la communication, inlassable, avec les journalistes, parfois je dirais d'apprivoisement des journalistes, qu'ils apprennent à connaître telle communauté, les protestants, les catholiques, les musulmans, la communauté juive. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Apprendre à connaître un peu la culture de chacun. Ça veut dire des relations constructives et régulières avec le monde des médias. Ce que nous n'avons pas nous-mêmes toujours la patience de faire. Il faut aussi accepter d'entrer un peu dans leur logique. Alors, c'est vrai que souvent le combat nous paraît perdu d'avance, hein. Parce que si on ajoute là-dessus, on en parlait aussi à table, l'inculture religieuse du monde des médias, c'est-à-dire, voilà, vous vous souvenez de cette histoire, vous savez, avant la météo, dans la France laïque et républicaine, après la météo, on avait le droit d'annoncer le saint du lendemain. Maintenant, il ne faut plus le dire, on dit juste le prénom, parce qu'il ne faut plus dire saint, machin. Mais à cette époque-là, où on annonçait le saint, la présentatrice après la météo, c'était fin novembre par là, avait dit et demain chers amis nous fêterons les avants. Voilà, je croyais que les avants c'était un saint, voilà. Tout simplement, c'est-à-dire sur une grande chaîne de télévision publique, voilà, demain nous fêterons les avants. Mais on pourrait multiplier, hein. Un jour, quand j'étais pasteur à Marseille, on avait invité Hubert Reeve qui était un grand astrophysicien sur la question traditionnelle, c'était pas foi et politique, mais c'était foi et science. Et bien sûr, on avait parlé des errements, des églises par rapport à la science. Alors, on avait parlé de Galilée, etc. Et le lendemain, dans le journal, il y avait écrit « De la Galilée à nos jours, que de chemin parcouru ». Voilà. On pourrait écrire les perles des médias dans le champ religieux. Voilà. que... Ah, j'ajoute juste encore une petite chose. Votre question, elle est fondamentale. J'ai pas de réponse à cette question. Mais en tout cas, il faut qu'on prenne cette conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas rester inerte. Il faut travailler pour essayer d'utiliser au mieux les moyens modernes de communication tels qu'ils sont. Internet en est un. En même temps, on est témoin d'une parole qui s'est incarnée dans l'histoire et pas d'une parole virtuelle qui circule entre des gens virtuels dans des communautés virtuelles. Hein, je veux dire, l'incarnation fait que de toute façon, l'écran peut pas faire écran à la vraie vie, c'est impossible. Hein. Il peut aider à porter la bonne nouvelle, mais il peut pas, d'une certaine manière, nous empêcher d'être dans l'histoire, d'être au cœur de l'histoire.
Voilà. Alors, mais, excusez-moi de reprendre la parole, mais je vais être l'optimiste ou l'espérant de service, mais d'abord, ainsi, nous avons deux radios chrétiennes. Donc, c'est déjà une manière pour les chrétiens de s'introduire dans cet espace de médias et d'avoir une parole, et pas des moindres. Nous avons eu à midi notre ami Stéphane Tremblay, nous avons ce soir Fernandine Bethlen de Radio Cénos, donc RCF, Radio Cénos. Et quant aux autres médias, nous avons la surprise cette année de voir que ce que nous faisons les intéresse, les médias généraux. Il y a un article dans le Dauphiné Libéré, une journaliste du Dauphiné Libéré est là ce soir, parce que le titre de cette conférence les intéresse, et il y a eu un article dans l'Essor. Donc ne désespérons pas, la parole des chrétiens dans l'espace public intéresse. Et le pasteur Michel Bertrand disait, nous avons du sens à donner dans cette société qui en manque. Eh bien, ne nous décourageons pas. Nous sommes petits, mais quelqu'un nous aide à porter notre voix. Voilà, je reste relativement optimiste par rapport à mon ami Jean Albert. Et Internet, je suis un peu plus méfiant parce qu'il y a moins de contrôle possible. D'autres questions ?
Général. D'abord, je me suis bien trouvé globalement dans votre exposé, sans difficulté. J'avais une petite réaction, peut-être épidermique, je ne sais pas. Quand vous avez mis quelques réserves sur l'expression l'Église experte en humanité, je crois que c'était Paul VI qui avait dit ça devant l'aéropage de l'ONU. Alors, il me semblait pourtant que dans votre exposé, au final, on a quelque chose à dire. Chaque Église, de par une sagesse, au fond accumulée, au contact de la parole de Dieu. Voilà. Pour ça, je me demandais si au final, au bout de votre exposé, on ne pourrait quand même pas dire que l'Église est experte en humanité. Alors, j'ai bien compris qu'elle n'est pas la seule experte. Mais dans le concert de l'humanité, là, une parole de sagesse. Voilà.
Je vous remercie de votre remarque. Bien entendu que toute Église est experte en humanité puisqu'elle croit en un Dieu qui s'est fait homme. Mais cette expertise en humanité s'enracine dans la foi. Et nous considérons que ce qui s'enracine dans la foi n'est pas exportable tel quel de manière universalisable pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais dans cet espace public où l'on débat, nous pouvons apporter des contributions qui peut-être peuvent devenir universalisables. Mais elles ne le sont pas en tant que telles, au premier degré, en dehors de la foi. Et au-delà de la citation que vous faites de Paul VI, bon, la notion d'experte en humanité est en fait une notion théologique importante dans le catholicisme. Elle a été notamment beaucoup développée par un théologien catholique qui s'appelle Hering, hein, et où il montre bien que il ne s'agit pas de l'expertise en humanité telle que vous la décrivez, mais il s'agit bien de la conviction que l'Église est porteuse d'une vérité qui peut être valable, enfin qui s'impose en quelque sorte à toute l'humanité, qui a une portée universelle en dehors même de la foi. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais on peut discuter de cela, y compris à l'intérieur du catholicisme. Je ne suis pas sûr que tous les théologiens catholiques partagent ce point de vue. Ouais,
c'est...
Moi, je voudrais vous remercier aussi. J'ai, comme Jean-Marc, la chance, le bonheur de vous avoir comme professeur plusieurs années, à Valence et à Lyon. Et je vous ai pleinement retrouvé au meilleur de vous-même ce soir.
Je vous remercie.
Yeah.
Quand vous voyez, le pire n'est jamais loin.
Non, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. J'ai été marqué ce soir par deux termes qui vous caractérisent pleinement, qu'on retrouvait toujours lors de vos cours. Ces deux termes, c'est l'articulation, articuler, et proposer. Je vais un instant sur le deuxième terme, proposer, ne jamais imposer. C'est revenu très souvent dans votre propos. Puis l'articulation, ça, c'est vraiment, ça vous est vraiment propre. L'articulation, c'est cette volonté de créer du jeu, un mouvement dynamique, donc un espace de liberté. Vous avez cette faculté remarquable de définir, vous avez parlé des remarquables tableaux, vous avez dressé ce soir un tableau extrêmement clair, parce que vous avez cette faculté remarquable de définir un espace au sein duquel vous structurez brillamment votre propos. C'est une structure qui rend toujours clair et facile à intérioriser. Je voudrais rappeler ce que vous avez dit dès le départ, plantez bien le décor. Les jalons que vous avez posés et qui balisent le parcours auquel nous sommes invités dans notre société devenue si complexe et si douloureuse pour les plus fragiles. Parmi les jalons, la difficulté à conjuguer l'épanouissement personnel et l'engagement citoyen. Le déchirement du tissu social, on s'en rend compte tous les jours, avec en même temps cet effondrement des solidarités. Et je voudrais dire ce qui m'a particulièrement marqué ce soir, que j'ai particulièrement aimé dans votre propos. À propos de la laïcité, on a retrouvé l'articulation et la proposition. Ne pas vouloir imposer. En fait, vous nous avez dit, la parole, elle ne doit jamais être normative, elle ne doit pas être hégémonique. Vous n'avez pas prononcé le mot ce soir, mais je l'avais retenu lors de ce terme-là, extrêmement important, lors d'un de vos cours à Lyon. C'est-à-dire qu'elle doit être proposée. L'expression publique des religions, elle est non seulement possible dans une société laïque, elle est légitime et nécessaire, et c'est là qu'on va trouver, donc la proposition, et c'est là qu'on va trouver l'articulation extrêmement importante, à condition qu'elle ne prétende pas gouverner la société selon des normes religieuses. Et puis je voudrais vous remercier aussi d'avoir cité deux personnes qui sont très importantes pour moi. Le grand rabbin Gilles Bernheim, vous avez cité une définition extrêmement intéressante, je voudrais en donner une autre que j'avais relevée. La religion, pour lui, c'est l'art de relier les gens entre eux, permettant des relations de plus en plus responsables. Et je crois qu'on en a de plus en plus besoin. Merci d'avoir souligné l'intérêt de la pluralité. Pluralité, singularité. D'avoir rappelé la nécessité de nous libérer de nos peurs et de nous libérer de notre incapacité ou est notre manque de volonté à agir. J'ai presque fini. Et puis, merci d'avoir proposé une réponse concrète à cette question aussi délicate du vivre ensemble, la proposition en l'occurrence de constituer des communautés d'apprentissage, apprendre, parce que le vivre ensemble ne relève pas de l'inné, il s'apprend dans la confrontation respectueuse et responsable. Et puis deuxième personnalité citée, Paul Ricoeur, si précieux pour nous, avec une autre citation relative à la religion, Ricoeur disait « Une des fonctions de la religion et de libérer la bonté originaire. » Et là aussi, elle en a bien besoin. Je vous remercie infiniment.
Merci. technique.
Je voudrais savoir aujourd'hui quelle est la place qui est faite à l'étude du fait religieux dans les établissements scolaires.
Je pense qu'il y a des enseignants dans la salle qui sauront répondre mieux que moi. Je pense que c'est très inégal, hein, et que c'est évidemment, comme ça n'est pas vraiment rentré dans les directives officielles, c'est laissé à la discrétion de chaque enseignant. Enfin, vraiment, je parle sous le contrôle des enseignants qui sont là. Et je pense que suivant les cas, il y a des enseignants qui en parlent beaucoup parce qu'ils sont habités du même souci que Régis Debré. Parce que de toute façon, ils sont obligés de le faire selon la discipline qu'ils enseignent. Hein, je veux dire, quand on enseigne l'histoire, on enseigne la littérature, la philosophie, on est forcément obligé d'avoir un certain nombre de références à la Bible ou aux faits religieux. Hein. Il y a des expériences pilotes qui ont été réalisées il y a quelques années. Les équipes de recherche biblique de la Fédération protestante de France avaient, à la demande du CRDP de Créteil, hein, c'est-à-dire d'une instance qui est très engagée dans l'école publique, hein, de réaliser un petit manuel pour permettre une entrée dans la lecture de la Bible d'une manière qui ne soit pas confessionnelle. Et je vous recommande, j'ai la référence dans mes notes, je vous recommande ce petit ouvrage qui avait été fait par les équipes de recherche biblique, voilà, une tentative d'aider une découverte des textes bibliques d'une manière qui ne soit pas confessionnelle, c'est-à-dire émanant directement d'une église, mais qui soit préparée pour être utilisée dans l'école publique. Voilà, il y a sans doute d'autres expériences, mais je pense que voilà, des enseignants pourraient apporter des éléments plus précis à votre question. Oui ?
Je peux répondre en effet qu'officiellement, on n'a pas de directive, mais qu'on ne peut pas s'empêcher, enfin, bon, moi, je trouve ça de l'aide. Je pense à un poème, par exemple, de Baudelaire. On ne peut pas lire un Bonnie du soir, par exemple, ou d'autres poèmes, sans avoir un minimum de bagage, de termes techniques, religieux, on est obligé d'expliquer. Bon, donc en permanence, on est confronté à cela. Mais je ne sache pas qu'on ait une application systématique de ce qu'avait proposé Régis Debré.
Non. non, c'est clair. Mais c'est peut-être l'occasion de dire quand même, parce que c'est là qu'on est parfois très frileux, hein. On a le sentiment, parce que la laïcité française est souvent anti-religieuse, enfin, ceux qui s'expriment le plus fort, un peu anti-religieuse, anti-cléricale, on vit dans une société incontestablement déchristianisée, mais moi j'ai parfois le sentiment que c'est comme quand on va au fond d'une piscine, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on a touché le fond, à un moment, bah forcément on remonte, quoi. Et moi je sens ça très fort dans la société, où peut-être à force d'avoir refoulé le spirituel, il revient. Et comme toujours, dans le retour du refoulé, il peut revenir sous la pire manière, mais aussi sous la meilleure, et qu'il faut essayer de choisir les meilleures. Et on perçoit, paradoxalement, dans cette société très sécularisée, une attente de sens, comme on l'a rappelé tout à l'heure, un besoin une attente d'espérance, il y a une attente spirituelle très forte. Jamais on a autant parlé de spiritualité, de religion dans cette société qui pourtant, en apparence, la refuse. Et dans le monde de la culture, il y a un certain nombre d'intellectuels, voilà, vrais ou faux, qui font entendre une voix souvent hostile aux religions, mais il y a aussi, le journaliste nous le rappelait d'ailleurs à midi, beaucoup d'intellectuels qui travaillent sur cette question du sens, ou qui le cherchent. Juste pour vous donner un exemple, parce qu'il est tout récent, on avait la semaine dernière, à la Faculté de théologie de Montpellier, dans le cadre du Printemps des poètes, une soirée autour d'Éry de Luca. Et on a eu une intervention brillante d'une universitaire de Toulouse qui nous a fait un exposé sur Éry de Luca et sur sa confrontation permanente avec le texte de la Bible. Bon, aujourd'hui, Éry de Luca, dans les milieux bien informés, bien cultivés, on lit Éry de Luca. Mais est-ce qu'on voit derrière tout ce travail de spiritualité de cet homme qui dit « Je ne suis pas croyant, mais je ne suis pas athée » parce que Dieu est toujours là. Il dit « Je suis un témoin indirect » d'un Dieu dans lequel je n'arrive pas à croire, mais qu'il habite. Et il a appris les langues bibliques pour étudier le texte de la Bible. Et cette jeune universitaire, c'était assez incroyable, dans cette faculté de théologie, elle nous expliquait qu'elle avait appris l'hébreu pour pouvoir lire et comprendre Éry de Luca, qui lui-même avait appris l'hébreu pour lire la Bible. C'est-à-dire, des fois on se dit, mais y a une vraie passion, et puis en plus la façon dont elle en parlait témoignait d'une vraie passion pour l'auteur, mais aussi à travers l'auteur, pour la Bible et pour sa quête spirituelle. Et pour cette voix, puisque c'est un peu le thème de sa conférence, c'est un homme habité par une voix, par la voix qu'il entend et qu'il cherche, et par cette parole qui lui parle sans qu'il arrive encore à confesser le sujet qu'il la prononce. Enfin, c'était très, très beau. Donc il y a vraiment une attente d'une parole... une parole spirituelle, une parole de foi, d'une parole théologique qui s'interroge sur la question des finalités et du sens, au moment même où les finalités et le sens se dérobent.
Oui, moi je voulais vous poser la question de savoir si vraiment les malentendus qui peuvent y avoir entre la politique et la religion, finalement, ça ne proviennent pas du fait qu'on mette une interprétation différente sur le terme de laïcité. C'est-à-dire que, en tout cas en France, la laïcité est souvent comprise comme étant un rejet total de tout ce qui est religieux, alors qu'en fait, dans cette fameuse loi de 1905, c'était une protection, au contraire, de l'expression même des différentes valeurs qui sont exprimées dans les différentes églises. Oui. Donc, ça reste débattre, mais comment arriver à faire comprendre ça? Parce que peut-être que justement, les parents témoignages pourraient retrouver leur propre valeur en la mesure où on revient au sens même de la loi. Oui.
Je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs étages. Hein. Je crois d'abord qu'on oublie trop souvent qu'au moment où la loi de séparation a été écrite et votée, il y avait plusieurs compréhensions qui s'exprimaient et qu'il y avait effectivement des modèles législatifs proposés infiniment plus anti-religieux, hein, plus militants contre la religion, contre le catholicisme en fait, c'était très anticlérical et anticatholique. Et que le modèle qui a prévalu, c'est le modèle le plus libéral. Bon, donc déjà on oublie ça. Aujourd'hui, ceux qui se targuent de la loi de séparation pour tirer à boulet rouge sur les religions, à mon sens, j'ose le dire, je suis prêt à en discuter, à être contredit, mais texte en main, se trompent dans la compréhension même de ce modèle de laïcité prévu dans la loi de séparation des églises et de l'État. Rien que l'idée de dire que c'est une loi de privatisation de la religion est complètement absurde. Le mot « exercice public du culte » apparaît en toutes lettres. Ça poserait pas, on ne poserait même pas la question de l'atteinte à l'ordre public si cette loi prévoyait la privatisation de la religion. Si on prévoit le risque d'atteinte portée à l'ordre public, c'est bien parce qu'on organise le libre exercice public des cultes. Et qu'il faut que les religions puissent vivre librement, s'organiser librement, mais effectivement sans trouver l'ordre républicain. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est non seulement pas contre les religions, mais c'est pour les religions. Et ça, du côté des religions, même, on l'oublie souvent. Et notamment, ce que prévoit la laïcité, c'est la non-ingérence du politique dans les affaires religieuses. Briand à la Chambre expliquait « Les religions, les églises ont des lois et des règles dans lesquelles l'État ne saurait intervenir. » Et encore aujourd'hui, quand parfois il arrive, souvent par mégarde, que les pouvoirs politiques prennent une loi qui risque de porter atteinte à des principes fondamentaux de telle ou telle religion, qu'ils reviennent en arrière ou qu'ils fassent une dispense pour cette religion, tout simplement parce que la laïcité prévoit de garantir le libre exercice public du culte et le respect des églises, des religions dans leur organisation propre. C'est-à-dire que l'État s'interdit de faire de la théologie d'une certaine manière. Il s'interdit de dire qui sont les bons et les mauvais croyants. Il s'interdit de prendre des décisions pourraient porter atteinte à l'organisation d'une église. À table, je donnais un exemple qui remonte à une quinzaine d'années, lorsqu'il y avait eu le scandale de l'Arc, et dont vous vous souvenez, où en fait des dirigeants de l'association s'en étaient mis plein les poches. Il y avait une circulaire qui avait été édictée, disant que désormais, les dirigeants d'une association, ceux qui sont membres des comités dirigeants d'une association, ne peuvent pas être rémunérés par cette association. Ils peuvent avoir des salariés, mais ceux qui sont dans les instances dirigeantes ne peuvent pas être rémunérés. Ce qui était une sage décision. Sauf que on s'en est immédiatement ému dans le protestantisme, puisque les pasteurs qui sont des salariés de l'association sont membres des comités directeurs. Ils sont membres des conseils régionaux, ils sont membres du synode, ils sont membres du conseil national de l'Église, et donc c'était inapplicable, sauf à renoncer à ce que nous considérons comme un principe d'organisation de l'Église fondamentale, c'est-à-dire lié à nos convictions théologiques. Bien bon, il y a eu des démarches qui ont été faites, et le pouvoir politique l'a parfaitement compris. Et d'ailleurs, et facilement, sans qu'il y ait de débat. Et du reste, s'il ne l'avait pas compris, je veux dire, le Conseil d'État aurait forcément tranché en faveur des églises. La laïcité garantit aux églises qu'elles peuvent s'organiser comme elles veulent, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public. Donc vous voyez tout le débat, par exemple, qui peut se poser à propos d'une prédication, par exemple. Hein, si une prédication... appel à l'insurrection générale, bon, peut-être qu'une fois ça pourra passer, si ça se répète, bon, dire là, le pouvoir public serait, je dirais, légitime de dire, mais attendez, là, c'est votre théologie, d'accord, mais à force de prêcher ça, vous allez... C'est un peu le débat qu'il y a avec certains prêches aujourd'hui des imams, hein. C'est pas tellement les pasteurs et les prêtres qui sont visés dans l'affaire, mais ils pourraient l'être, ils pourraient l'être. Hein. Mais notez quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui vraiment à la fois me frappe et même me scandalise aujourd'hui, c'est de voir que de tous bords politiques, je ne dis pas de tous les politiques, hein, mais de tous bords politiques, pourquoi aujourd'hui la laïcité est invoquée? Elle est invoquée pour s'opposer aux religions et particulièrement à l'islam. On aboutit à ce paradoxe incroyable que certains partis qui sont héritiers d'une tradition qui s'est opposée bec et ongle, et quand il y avait le bec et les ongles, c'était encore peu, à l'émergence de la laïcité, et qui aujourd'hui l'invoque uniquement parce que c'est la dernière arme qui reste pour pouvoir s'opposer à une expression religieuse. Voilà, donc ça pose des questions, et ça, c'est une perversion de la laïcité. La laïcité, elle protège les religions. Elle protège les religions. Ce qui fait que, par rapport à ce qui était avant, où il y avait les cultes reconnus, la République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît tous, et elle permet à tous de pouvoir vivre librement leur foi. Et ça, c'est, en ça, la laïcité, c'est la promotion d'une liberté. Mais bon, malheureusement, vous avez raison, il y a diverses interprétations de la laïcité, et je crois que ceux qui en font une lecture restrictive, que j'appelle idéologique, commettent une erreur historique, enfin historique, une erreur par rapport à l'histoire, me semble-t-il. La laïcité, c'est pas une idéologie. Elle a été trop souvent confondue avec les idéaux républicains. La République, c'est une chose. La laïcité, c'est un cadre législatif qui permet, qui est une des contributions au vivre ensemble en permettant aux églises de vivre dans la République. Mais ça n'est pas un système de valeurs, la laïcité. Mais on sent bien que pour certains, la laïcité est devenue un système de valeurs, voilà, qui véhicule des notions anti-religieuses, qui se confond parfois avec les valeurs républicaines, etc. Mais laissons la République avec ses valeurs, ça c'est une chose, mais la laïcité, c'est pas, ça ne peut pas s'identifier sans autre à ça. La laïcité, c'est d'abord un cadre de loi.
Mais est-ce que les manifestations de l'islam... Est-ce que les manifestations de l'islam, notamment sur l'espace public, ne sont pas, justifient pas justement ce rappel de la laïcité, tous ces principes? Il n'y a pas aussi peut-être une exagération de ce côté-là?
C'est-à-dire, je pense que la laïcité protège la société de, effectivement, tous les excès religieux, que ce soit ceux de l'islam ou ceux d'autres religions. Alors, après, il faut analyser les choses. Par exemple, à un moment, l'islam qui prie sur les trottoirs. Bon, oui, ben avant, il priait dans les caves. Hein. Bon, il prie sur les trottoirs. Peut-être la question qu'il faut aussi se poser, c'est pourquoi il prie sur le trottoir? Ben, et peut-être que s'ils ont des lieux, ils prieront plus sur les trottoirs. Et il me semble qu'alors, pour le coup, les protestants sont peut-être pas les plus mal placés pour défendre la laïcité, mais pour dire que la laïcité, elle doit permettre à chacun de vivre librement. En même temps, c'est compliqué, votre question, et même la réponse que j'essaye de faire, parce que leur donner des lieux pour vivre leur foi, ça risque de signifier mettre à disposition des locaux, ça veut dire que les pouvoirs publics indirectement subventionnent, mais quand on regarde bien la loi de 1905, elle n'interdit pas formellement tout subventionnement des religions. pour s'équiper. Elle les limite, c'est clair. Hein. Donc, votre question est juste, c'est pas aussi simple d'y répondre. Hein. Mais voilà, j'éviterais de voir qu'une religion. C'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi ? Parce que l'islam, il n'était pas là dans le pacte laïque initial. Et aujourd'hui, il est sur le devant de la scène. Il est aussi sur le devant de la scène parce que on ne parle que des partis les plus extrémistes de l'islam, hein, des fanatiques. L'islam de France, l'islam qui vit en France, c'est qui ? La plupart du temps, ce sont de pauvres gens qui viennent travailler. Ce sont des travailleurs, la plupart des musulmans. Ce ne sont pas des intellectuels. Donc, du coup, ils ont en plus beaucoup de mal à se défendre. Parce que essayer de trouver un musulman qui vient participer à une table ronde, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que les musulmans en France sont des gens simples qui pratiquent leur religion, qui ont un rituel, mais ils ont peu de porte-parole. Ceux qui sont les porte-parole, ce sont souvent des gens qui ont le pouvoir de la parole, pouvoir de l'analyse, de la réflexion, et qui sont porteurs souvent de slogans extrémistes, de positions extrémistes. Mais j'allais dire l'islam, oui, ordinaire, quotidien, c'est-à-dire des gens comme nous ici, ils demandent qu'une chose, c'est de pouvoir respecter leur rituel. La plupart du temps, c'est ça. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai parlé avec tel ou tel là dans ces deux jours, j'étais dans le Gers pour une table ronde interreligieuse. L'imam qui était là, il a commencé par me dire, je lui ai dit, vous êtes imam de la communauté, il m'a dit, vous savez, je suis pas, il m'a pas dit, je suis pas plus imam que vous, mais il m'a dit, je suis l'imam parce qu'il n'y a pas d'imam. Alors ça m'a rappelé des choses d'ailleurs, dans le protestantisme, quand il n'y a pas de pasteur, en tout cas, on peut s'organiser quand même sans pasteur, mais on est content quand même quand il y a un pasteur. Voilà, on est reconnaissant. Ah ben lui, il disait, bon, on m'a mis, et alors c'est intéressant, il m'a dit, on m'a mis moi comme imam, pourquoi ? Parce que je suis ingénieur. Et que je suis le seul qui a fait des études. Alors on m'a mis imam. Mais dès qu'il y aura un vrai imam, je prendrai ma place dans la communauté. Et il a commencé son intervention. Je ne sais plus quel était le fait qui venait encore de se passer sur la scène française ou internationale. Il a dit, je vous demande une chose. C'est que vous ne pensiez pas que l'islam de France, c'est ça. Ces gens-là représentent un pourcentage infime. Alors, ce n'est pas pour noyer le problème. Hein. De la même manière qu'il y a eu en christianisme, des tendances théocratiques, il y a des extrêmes, il y en a encore, il y a des fanatismes, qu'il faut les dénoncer, les critiquer, y résister. Eh bien, quand ils existent dans l'islam ou dans d'autres religions, il faut aussi les dénoncer et les combattre. Mais, si vous voulez, c'est le traitement particulier qui vraiment, je crois, pose problème. Et surtout, l'utilisation de la laïcité à ses fins. Mais bien sûr, vous avez raison, que la laïcité, elle est faite pour réguler ce genre de débordement. C'est vrai. Mais, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça se voit moins en France avec les religions historiques, mais ailleurs dans le monde, vous savez, quand vous avez des pasteurs qui veulent brûler le Coran en place publique, voilà, je veux dire, ça pose aussi quelques questions, quoi. Hein. Vous parlez de balayer dans notre porte quand des églises réformées en Afrique du Sud ont justifié l'apartheid, je veux dire, c'est... Voilà, il faut le dire, il faut combattre, il faut résister. Et ces églises-là, elles ont été exclues de l'Alliance réformée mondiale parce que, voilà, ça n'avait pas à sa place, ce genre de position. Voilà.
Je suis obligé de continuer votre dernier commentaire. Parce que vous ne pensez pas que la loi du 1905 sera menacée par le plus grand nombre. Et la religion d'islam est une religion de société. Et si les islamistes ont la majorité, ils peuvent voter n'importe quoi. Et abolir cette loi du 1905. Moi, je ne crains aucune religion, hein, je vous le dis. Mais j'aimerais avoir votre sentiment.
Votre question, aucune question n'est illégitime, parce que aucune crainte ou aucune peur n'est illégitime. Donc il faut se poser ce genre de questions. En même temps, il faut regarder l'histoire. Et je le disais à l'instant, voir que le christianisme a été terriblement théocratique. Je veux dire, l'alliance du sabre et du goupillon, on en est sorti quand ? C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'il y a dans l'islam des tendances théocratiques, hein, vous dites sociétales, bien sûr. C'est-à-dire qu'on prend la religion comme un modèle social. Mais les églises ont-elles toujours échappé? Ben, bien sûr que non. Non seulement elles n'y ont pas échappé, mais elles sont tombées en plein dedans. Nous avons, pendant des siècles, organisé la société suivant un modèle chrétien. Et il y avait une confusion permanente, que ce soit le pouvoir politique des dignitaires ecclésiaux, que ce soit le pouvoir religieux des dignitaires politiques, mais que ce soit césaropapisme ou théocratie, qu'on prenne les choses dans le sens qu'on veut, il y avait une collusion, il y avait superposition, il y avait confusion entre les deux domaines. Donc, on est bien placé pour examiner ce qui peut se passer à propos de l'islam, parce que nous, on a donné en la matière. Hein. Et donc, il faut aussi qu'on accepte de voir, nous, comment on a fonctionné. Ça nous rend particulièrement vigilants. Simplement, personnellement, mais je veux dire, chacun fait les analyses qu'il veut, je n'ai pas ce type d'inquiétude par rapport à l'islam de France. Peut-être je me trompe, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je résiste fortement à ceux qui disent la République va un jour devenir islamique. Non, la République, elle est laïque. Et parce qu'elle est laïque, c'est ça le bastion qui nous empêchera qu'elle devienne islamique. C'est mon espoir, c'est pour ça que je suis attaché à la laïcité. Et donc, on voit bien d'ailleurs comment ça fonctionne dans certains pays musulmans. Regardez en Turquie. Hein, pourtant, il y a un mouvement islamique assez fort. Enfin, l'islam a pris le bord. Mais qu'est-ce qui permet de résister? C'est la laïcité de ce pays. Alors, on peut en dire ce qu'on veut, rien n'est parfait, pas plus chez eux que chez nous d'ailleurs. Mais bien sûr qu'il y a aussi des problèmes. Mais il n'empêche, on voit bien comment cette laïcité, elle permet de résister, là où dans d'autres pays musulmans, on n'avait pas les moyens de résister, comme en Égypte, par exemple. Hein? Bon, je lisais hier que c'est pas la laïcité, mais c'est peut-être l'armée, encore autre chose, qui va se poser comme bastion, comme barrière pour endiguer la montée d'une forme d'islamisme. J'ai confiance, moi, qu'en tout cas en France, je crois que la laïcité est suffisamment forte, même si elle est aujourd'hui beaucoup interrogée, s'il faut la faire évoluer, elle est suffisamment forte pour empêcher ce genre. Donc, j'ai pas vraiment de crainte en la matière. Mais, pour ça qu'il faut être vigilant pour qu'elle soit à la fois respectée, la laïcité, dans ce qu'elle propose, c'est-à-dire reconnaissance des religions, libre exercice public du culte, mais en même temps, régulation de cet exercice public du culte. Et moi, personnellement, vraiment, mais c'est très personnel, hein, je n'ai rien à dire lorsqu'un ministre de l'Intérieur considère que certains prêches de certains imams appellent à la guerre sainte, appellent au djihad, appellent à la violence, ben, qu'on dise, ces gens-là n'ont pas leur place dans le cadre de la République laïque. Ça, je veux dire, ça me paraît. C'est ça le respect de l'ordre public. Après, les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent dans leur cœur, ils ont le droit dans leur famille de vivre suivant des normes. Voilà. Mais je sais bien qu'il y a des pays. Hein, Où c'est pas aussi simple. Hein. Je sais plus avec qui on en parlait. Je suis là depuis 2 jours, mais j'ai l'impression d'avoir rencontré tellement de gens. Ce film s'appelle Wajda, qui est un film merveilleux. Hein, cette petite fille qui résiste, voilà, par rapport à l'asservissement des femmes. Voilà, ben c'est sûr que là, on voit bien qu'il y a un ordre qui, nous l'espérons, ne trouvera jamais sa place dans notre pays. Je crois que c'est à ça que sert la laïcité. Mais je crois que, je vous suis reconnaissant de votre question, parce que, voyez-vous, parfois, c'est ça l'intérêt de l'espace public, et c'est là aussi que les églises peuvent être communautés d'apprentissage. C'est qu'elles puissent être des lieux où on puisse exprimer toutes nos craintes, toutes nos inquiétudes, peut-être toutes nos peurs, sans se sentir immédiatement, dire « Oh non, vous êtes trop frileux, vous avez peur de tout, etc. » ou « Vous êtes trop conservateur, vous êtes patati patata. » Je veux dire, il faut que dans l'église, on puisse oser dire ça. Voilà, j'ai cette crainte-là, et puis qu'on puisse en discuter, et puis qu'on puisse aussi recevoir une parole qui nous aide à garder confiance par rapport à ça.
Je voulais juste ajouter par rapport à cette notion de laïcité qui est parfois posée comme une idole, et parfois la méconnaissance justement de cette loi et de cette notion au niveau de l'histoire de France. C'est que le mot laïcité n'est pas inscrit dans la Constitution et il n'est pas présent, il n'y a jamais été. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante, et que finalement, un État laïque et le fait que l'Église et l'État soient séparés sont deux choses distinctes. Il se trouve qu'en France, nous sommes dans un État laïque et l'Église est séparée de l'État, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Europe, il y a des exemples où ou bien l'Église et l'État sont réunis, l'État est laïque, voilà, inversement. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une confusion, et je pense que ça peut nous aider aussi en prenant conscience de notre histoire et de la façon dont a fonctionné cette loi, et qui évolue aussi, hein, qui se construit, qui se complète. Voilà, donc ça aussi c'est intéressant qu'on n'est pas arrêté, figé en 1905, mais qu'au gré des événements aussi il y a une évolution, et ça aussi ça donne de la confiance par rapport à la question
de
Lucien, pour la suite.
Le premier pays laïque, c'est les États-Unis. Alors ça nous fait sourire quand l'histoire nous apprend ça. Hein? Mais il y a une séparation. En même temps, ça n'empêche pas que la religion joue un rôle extrêmement puissant dans la société. Et puis ce que tu dis est très juste, c'est que... C'est pour ça qu'en même temps, il faut être un peu les gardiens de ce pacte laïque français, dans le contexte français. Mais en même temps, il faut bien savoir que de toute façon, il va évoluer. De toute façon. Il ne pourra pas rester en l'état. Alors, que l'on garde la loi, parce qu'il y a des textes qui ont parfois une portée symbolique et auxquels il ne faut pas trop toucher parce que ça réveille tous les vieux démons, etc. Elle a déjà été modifiée au moins plus d'une dizaine de fois. Hein. Donc, il ne faut pas se précipiter à bouger les lois. En France, on a la manie, dès qu'il y a un problème, on fait une loi ou on la modifie. Mais il faut sans doute faire... évoluer la manière de la comprendre et de l'interpréter en s'adaptant. Et il y a notamment un élément que tu as évoqué d'ailleurs en parlant des églises en Europe, c'est l'Europe en train de se construire. Voyez le nombre de fois déjà où la Cour européenne des droits de l'homme a pris des arrêtés qui étaient tout à fait, soit qui allaient dans le sens de la laïcité française, soit au contraire qui la démentaient complètement. C'est-à-dire l'interdiction faite en Grèce d'avoir la confession sur sa carte d'identité, les laïcs français disent « Hourra !» Mais la même Cour européenne a dit « Mais il peut y avoir des crucifix dans les salles de classe en Italie, ça pour un laïc français, ça a du mal. » Pourquoi ? Parce que la foi, elle n'est pas une réalité éthérée, elle s'inscrit toujours dans une histoire et dans une culture. Et donc, voilà, ça montre qu'on peut défendre une forme d'émancipation de la société à l'égard des tutelles religieuses, mais en même temps faire évoluer notre compréhension de nos textes. Ça, c'est sûr. Et il y a un autre aspect dont on parle. On parle beaucoup de l'islam à propos de la laïcité. Mais je veux dire, il y a aussi tous ces nouveaux mouvements spirituels qui prolifèrent aujourd'hui dans notre société. Je veux dire, on n'en a pas idée, mais c'est incroyable. Et on se focalise beaucoup sur l'islam, mais un certain nombre de familles touchées par ces réalités-là savent qu'elles sont aussi également extrêmement dangereuses. Et que par rapport à tous ces mouvements, que je n'aime pas appeler secte, parce qu'on est toujours la secte de quelqu'un, mais tous ces nouveaux mouvements religieux, qui peut-être répondent maladroitement à une quête de sens, hein, peuvent aussi être extrêmement dangereux quant à la liberté et la dignité des personnes. Et par rapport à ça aussi, la laïcité est importante. Oui, mais une question au fond là-bas.
Je ne voudrais pas ouvrir un débat politique, mais je voudrais respectueusement rappeler à Madame la Pasteur que, sauf erreur de ma part, le président de la République a dans son programme la constitutionnalisation de la loi de 1905. Je me permets de le rappeler que, effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de débats à l'Assemblée autour de ce projet de constitutionnaliser sanctuariser dans la Constitution, que Dieu merci, si je peux dire ainsi, tous les efforts sont faits, y compris dans le propre camp du président, pour éviter que cette constitutionnalisation soit faite.
Vous avez raison de dire Dieu merci, parce qu'il y avait un pasteur du 19e siècle qui disait « Seul Dieu est laïque. Hélas, l'homme est religieux. » Porteur de maladies cléricalement transmissibles. C'était pas tout à fait faux d'ailleurs, hein, c'était un peu provocateur, mais ça rejoint un peu ce qu'on dit. Le message biblique, c'est une forme de laïcisation de l'univers quand même. Alors, je sais pas si Dieu est laïque, mais seul Dieu est saint, seul Dieu est sacré, et du coup, le reste est profane et donné à l'homme et aux croyants pour le faire vivre et le faire vivre dans la justice et dans la paix. Mais vous évoquez le programme du président actuel, mais il y a eu aussi quelque chose qui a défrayé la chronique ces derniers jours dans le champ de la laïcité, porté par des lobbies très laïques, C'était ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité à propos du fait que les pasteurs, et je crois aussi les rabbins, sont payés par l'État en Alsace-Moselle. Alors, ils n'ont pas essayé avec les catholiques, parce que là, c'est plus compliqué, parce que c'est le concordat, donc c'est des relations d'État à État, donc ils ont dit, ça, c'est trop compliqué, ce sera trop lourd. Mais si on arrivait à faire, à poser le problème à partir de ceux qui sont moins costauds, là, les protestants et les juifs, du coup, ça ferait forcément boule de neige, puisque en Alsace, vous savez que pour les catholiques, c'est le concordat, pour les autres, c'est les articles organiques. Et du coup, ils ont posé la question, et les Alsaciens ont été très, très émus. Les églises d'Alsace ont eu très peur, et finalement, le conseil a tranché en disant que c'était tout à fait constitutionnel et qu'il n'y avait rien à redire là-dedans. Mais ça reviendra d'une autre manière. Il y a tout un groupe qui n'a de cesse de dire la République, c'est la même pour tous, y compris en Alsace-Moselle, et qui voudrait... D'ailleurs, assez intéressant, parce que souvent, ils ne voient que la laïcité. Ils disent, c'est ça la spécificité alsacienne. Alors qu'en fait, ça témoigne d'une ignorance profonde, parce qu'il y a bien d'autres spécicités alsaciennes. Qui n'ont rien à voir avec la religion, les associations de droit local, le régime particulier de sécurité sociale, le seul qui soit en équilibre et pas en déficit. Voilà. Mais ça n'intéresse pas les médias, hein, pour rejoindre votre question. Ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est que les pasteurs, les curés et les rabbins, ils sont payés par l'État. Alors ça, voilà, c'est une atteinte à la sacro-sainte laïcité. Bon, ceci dit, moi, vu de la France de l'intérieur... ça ne me poserait pas un problème considérable si l'Alsace-Moselle rentrait dans le régime commun de tous. Peut-être que ça rééquilibrerait le système de sécurité sociale. ça poserait de sérieuses questions financières à nos églises sœurs, c'est sûr. Hein, parce que si du jour au lendemain, il fallait payer les prêtres, les pasteurs et les rabbins, ça serait très compliqué. Bon, les Alsaciens sont heureux comme ça. Enfin, comme le disait Charlotte Gérard, je veux dire, la laïcité, c'est pas un modèle unique. Hein. D'ailleurs, les Alsaciens n'aiment pas beaucoup qu'on dise l'Alsace par rapport à la laïcité française. Ils disent, nous vivons une laïcité alsacienne. Ils ne sont pas soumis à l'État. Ils vivent librement. Bon, ils sont payés, les pasteurs sont payés par l'État, mais les rabbins, les curés aussi. Il y a d'autres modèles. Voilà. C'est ça que parfois, certains laïcs ont du mal à comprendre. C'est qu'on peut être dans un régime de laïcité au sens d'une société émancipée de toute tutelle religieuse, sans que ce soit dans le cadre législatif de la laïcité française. En même temps, celui de la France est profondément respectable parce qu'il est lié à une histoire qui est notre histoire et qui n'est pas la même, et les protestants français sont bien placés pour le savoir, qui n'est pas la même que celle en Italie ou en Suisse ou en Belgique ou ailleurs.
Je voudrais rebondir sur la citation que vous ne connaissez pas, que vous avez faite de Calvin, qui dit que les petits magistrats ont le devoir de désobéissance quand l'autorité devient tyrannique et injuste. Et donc, où trouver le bon chemin entre le prêche enflammé des musulmans qui appellent à la guerre civile en France, et puis les thèses de Pomerol où des pasteurs se sont rebellés devant les lois raciales, puis à égalité d'ailleurs avec le témoignage chrétien qui s'est réveillé tout de suite après.
Moi, je n'ai pas de réponse théorique à la question, mais il faut demeurer dans cette question parce qu'elle montre bien que cette tension dont j'ai parlé tout au long de mon discours, qui structure la vie du croyant, soyez soumis aux autorités et il faut obéir aux dieux plutôt qu'aux hommes. C'est la double contrainte. Cette double contrainte structure la vie du croyant, mais à certains moments, elle le déchire. Mais franchir le pas de la désobéissance aux autorités, ça ne peut pas se faire comme ça, on le mesure bien, dans une situation anecdotique. Mais à certains moments, ce droit de résistance au tyran, pour parler comme Théodore de Bèze, n'est jamais à exclure. Et d'ailleurs, dans le texte du Synode national de 1998 qui parle de loyauté critique, ça avait fait un peu réagir ici ou là, était évoquée la possibilité d'une désobéissance civile non violente. C'est-à-dire que dans certains cas, alors ça portait sur le fait que des communautés accueillent par exemple des sans-papiers dans leurs locaux. Bon, c'est pas... D'ailleurs, il y avait une loi qui l'interdisait. Maintenant, ça a un peu bougé. Hein, mais je veux dire, c'était illégal. Bon, jusqu'où peut aller la désobéissance civile? En tout cas, ce que disait le texte du synode, c'est que c'était certainement pas une posture qu'on pouvait habiter rapidement et facilement comme ça, bon, on n'est pas d'accord, donc. Hein. Et puis, ce n'était pas au nom, c'est la différence avec le prêche enflammé, au nom d'une autre société à construire. C'est ponctuellement, sur un point précis, ce rôle de sentinelle, dire non, ce n'est pas possible. Ici, on ne peut plus. Hein. Alors, ça a été le cas dans une situation de manière organisée, au moment d'une asile, par l'Église confessante, hein, qui alors elle-même, Jean comme Bonhoeffer, sont sortis de l'opposition non violente, puisqu'il a participé à tentatives d'attentat, etc. Parce qu'à un moment, disait-il, quand un fou est au volant et qu'il détruit tout sur un passage, c'était l'image qu'il employait, ben, il faut tout faire pour se mettre hors d'état de nuire, quels que soient les moyens. Mais il était très en débat avec un homme que j'ai eu le privilège d'avoir comme pasteur, Jean Lasserre, qui était un non-violent absolu, et qui a beaucoup discuté, on a retrouvé des échanges de lettres avec Bonhoeffer, où il disait que, au nom de ce pacifisme absolu qui était le sien, il récusait, même dans cette situation précise, qu'on rentre dans la voie de la résistance violente. Mais juste pour poursuivre encore sur cette page d'histoire douloureuse, quand vous vous en rendez compte, d'une certaine manière, vous nous dites « c'était évident, là, hein, il fallait le faire ». Eh bien, détrompez-vous. Quand le pasteur Bugner, au nom du Conseil national de l'Église réformée, à l'époque, a écrit au grand rabbin Schwartz pour lui dire son indignation devant la législation concernant le statut des Juifs, il y a eu, dans le protestantisme, des gens qui ont reçu ce message avec approbation. Mais il y en a qui ont dit que l'Église ne devait pas s'occuper de ces choses-là. Il faut aussi le dire. Hein. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, c'est déjà pas mal ce qu'il a dit, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire, il y a ceux qui disaient, oui c'est très bien, il y a ceux qui disaient, mais de quoi il se mêle, c'est pas la mission de l'Église d'intervenir sur ces questions. Et puis d'autres qui ont dit, il aurait fallu aller beaucoup plus loin dans la protestation. Ça veut dire que même dans des situations qui, nous, avec le recul, nous apparaissent assez évidentes, là, il fallait dire quelque chose. Ben, dans le moment où ça se passait, ben, c'était pas aussi évident. Même si nous, ça nous paraît tellement tragique, tellement énorme, que bien sûr qu'il fallait dire quelque chose. C'est tout le problème, parfois, quand on relit l'histoire, des anachronismes. Hein, c'est-à-dire, on relit l'histoire à partir de notre situation présente, et on perd de vue que la situation, sur le moment, était autre.
Vous avez parlé de Éric de Lucas, je voudrais dire, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Éric de Lucas a sorti un livre récemment, qui s'appelle « Et il dit », où il décline de façon absolument lumineuse le décalogue. Il nous permet de revisiter le Sinaï de façon absolument extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire, parce que c'est vraiment extraordinaire.
Merci Norbert, merci professeur Michel Bertrand. On vous écoutera, nous on allait loin pour vous écouter et on l'a fait pendant plusieurs années, on ne va pas le refaire encore. Donc merci d'avoir accepté de venir faire cette conférence. Merci à vous d'être venu ce soir et d'avoir participé. La semaine thématique continue, donc demain les études bibliques entre midi et 14h. Demain c'est le prêtre Michel Tournade qui va venir faire une étude biblique, vous fait cette amitié. Je crois qu'il est suffisamment connu pour que j'insiste pas sur le fait que c'est l'ancien proviseur du lycée Saint-Michel et qu'il est maintenant prêtre de la paroisse de Saint-Dieu. Et puis, mercredi, c'est Fabrice Sandéo qui est pasteur et journaliste à Radio Zeno. Vous voyez que les médias sont très présents avec lui. Jeudi, c'est le docteur Albert Fachler, président de la communauté juive de Chambéry, qui va venir faire une étude publique. Il a déjà plein d'idées. Ça va être. Mais ceux qui connaissent ne vont pas être étonnés. Les autres, je le conseille de rester assis. Et puis, vendredi, c'est le pasteur Bruno Gérard, que nous connaissons bien, qui est pasteur de l'Église protestante de Genève, qui va venir. C'est pas vraiment une conclusion, mais enfin, il est dernier à parler, il le sait. Et il va se baser sur le passage du livre des juges et il a donné comme titre « Politique et religion, une bien épineuse question ». Voilà. Samedi à 17h30, ici, il y aura un concert gospel avec la chorale Good News. Ça s'appellera Good News for Freedom. Et puis, il y aura notre culte de clôture pour les familles, dirigé par notre pasteur Charles Gérard, dimanche à 10h. Voilà, rentrez bien chez vous et à bientôt pour ce que je vais faire.